Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 4h55 sur RMC. Salut Élise.
Salut Mathieu, salut
Comment
tout le monde. Ça va très bien.
Géraldine, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour à toutes et à tous. Je me demande si nos auditeurs sont fatigués ce matin.
Comme nous ?
Ouais, comme nous, peut-être un peu plus même. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu tout le match des Bleus hier, 23h, mais bon, on est contents, se réveillant, les Bleus qui continuent d'impressionner la planète foot.
Qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial cette nuit, victoire 3-0 face à la Suède avec un doublé de Mbappé, mais Michael Olise qui fait rêver. Alors, est-ce que vous avez vu le match qui s'est terminé vers 1h cette nuit ? Est-ce que ces Bleus vous font rêver ? Et tiens, on repose la question, est-ce que vous êtes confiant de plus en plus ? Oui. Est-ce qu'on est favori ?
Oui.
Voilà. Et cette équipe de France est-elle celle de la troisième étoile ?
On aimerait bien quand même.
Le oui était moins franc.
On ne veut pas se porter la poisse.
Oui, c'est vrai.
Bon, vous êtes supporter des Bleus, vous êtes chez vous sur RMC, vous le savez, la radio officielle de la Coupe du Monde. Et on vous fait vivre Mexique-Équateur qui se joue en ce moment. Edgar Grollo est en direct de Mexico. Salut Edgar.
Salut tout le monde, c'est la mi-temps à Mexico entre le Mexique et l'Équateur et pour l'instant démonstration des Mexicains qui mènent 2-0 à domicile, le but de Quiñones à la 22e minute et le but de Jiménez à la 31e et c'est un score qui pour l'instant reflète bien la physionomie du match où les Mexicains sont au-dessus des Équatoriens.
Edgar, qu'on retrouve tout au long du morning pour suivre la rencontre.
À la une ce matin, la canicule qui devient vraiment un sujet de dispute politique. Vive passe d'armes entre le Premier ministre et les écologistes à l'Assemblée hier. Vous avez des morts sur la conscience, accuse la présidente du groupe écolo qui veut déposer une motion de censure. Sébastien Lecornu, furieux. C'est scandaleux, dit-il.
Alors, est-ce que les écolos ont raison de chercher des responsabilités politiques ? On a déjà eu deux canicules et on va suffoquer à nouveau la semaine prochaine. Ça repose la question évidemment de la responsabilité des élus, celle de la gestion de ces épisodes météo extrêmes. Vous arbitrez le débat ce matin entre les écologistes et le Premier ministre. Est-ce qu'il faut chercher des coupables ? Le 32-16 vous est ouvert. Le WhatsApp RMC aussi, 06-12-424-424.
Les programmes scolaires d'éducation à la vie affective et sexuelle avec un chiffre RMC ce matin en primaire. 6 enfants sur 10 seulement ont suivi les 3 séances obligatoires, les séances prévues par la loi. C'est apparemment toujours compliqué d'appliquer le programme, d'appliquer la loi. Pourquoi ? Vous êtes prof ou directeur d'école. Est-ce que c'est si difficile à mettre en place ? Vous nous le dites.
Et puis, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a encore des réticences parentales ? Les bienfaits de ces séances ne sont plus à démontrer. Mais vous, parents d'élèves, est-ce que ces cours vous gênent ? Vos enfants les ont peut-être déjà suivis. Appelez-nous, racontez-nous au 32-16 ce matin.
Et puis, pouvoir d'achat et vacances avec une dernière question. Vous voyagez comment cet été ? Partir en vacances en voiture coûte 40% de plus qu'il y a 10 ans. Paris-Nice, on prend cet exemple, Paris-Nice, c'est 400 euros en 2026 contre 276 euros en 2016. Les carburants et les péages qui pèsent très lourd dans votre budget.
Le coût d'un voyage en voiture augmente 2 fois plus vite que l'inflation ces 10 dernières années. Alors, est-ce que c'est toujours une bonne idée de prendre la voiture pour les vacances ? Ça reste quand même moins cher que le train dans certains cas. Est-ce que vous partez en voiture ? Tiens, cet été, heureusement, le carburant baisse. Mais est-ce que vous avez fait les comptes ? Là aussi, on vous attend, on fait les comptes ensemble.
Appelez Clément là, au standard, il vous attend au 32-16 ce matin avec toute l'équipe du standard RMC. On va jouer au mot caché aussi à n'importe quel moment du morning. On prononce un mot qui sort de l'ordinaire. Si vous pensez l'avoir identifié, perdez pas de temps. Vous envoyez mot par SMS au 732-16.
Ah oui, parce qu'il y a des vacances à la clé quand même. Vous pouvez gagner un séjour dans l'un des 400 campings au mer. Ouais, c'est pas mal.
Ça peut alléger le budget total des vacances.
Plus cher en voiture, mais moins cher de logement. C'est des campings.
Du diesel Excellium.
Ah ouais. Ou juste faire un petit resto sympa.
Bon.
En tout cas, c'est des campings 4 à 5 étoiles, en France ou en Europe. Et alors, c'est très flexible. Hein. Vous pouvez partir de 2 nuits à 1 semaine. Vous pouvez partir tout seul ou à 6. Vraiment, vous faites votre marché. C'est vous qui allez remporter le jeu. Donc, c'est vous qui déciderez. Vous envoyez mot au 732-16.
Il est 4h59. Géraldine. On est entre deux canicules.
C'est ça, exactement. Enfin, entre deux, non. Enfin, on n'a pas encore terminé.
Oui, pardon, n'oublions pas le. Oui, mais c'est l'exigence orange. On est tellement habitué au rouge écarlate sur la carte.
C'est vrai que ça va quand même nettement mieux, mais on garde 4 départements du Sud-Est en vigilance orange canicule, donc Alpes-Maritimes, Var et les 2 départements Corse, où la nuit est encore très chaude. Hein. Il fait encore très chaud. Là, ce matin, on dépasse largement les 20, les 25 degrés même. Cet après-midi, il fera jusqu'à 37 degrés à Toulon, 35 à Marseille, on aura 31 à Lyon. Il fera 20 27 à Paris, à Nantes, 26 à Bordeaux, 24 à Lille, 20 à Brest. Au serait qu'hormis le sud-est, ailleurs, les températures sont quand même bien en baisse. On peut avoir quelques gouttes de pluie vers la Manche ou vers les Pyrénées ce matin. Et puis cet après-midi, attention encore aux orages vers les frontières de l'Est. Sinon, ce sera très ensoleillé. Et puis, on le disait, entre deux canicules quand même, oui, parce que là, on a des températures qui vont baisser. La nuit prochaine sera encore chaude sur le sud-est. Les températures baisseront demain après-midi. En revanche, à partir du week-end, les températures vont à nouveau s'envoler. Et la canicule est maintenant quasiment certaine, au moins pour les régions au sud de la Loire.
Il est 5h, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est le premier journal du morning avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, l'aventure qui continue pour les Bleus.
La France qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Monde en battant la Suède 3-0. On va revenir sur le match et sur cette très grosse prestation, encore une fois, de notre équipe de France. Vous allez entendre dans le journal la colère du Premier ministre Sébastien Lecornu, critiqué pour sa gestion de la canicule à l'Assemblée nationale. Et vous verrez donc que partir en vacances coûte de plus en plus cher. Le coût d'un trajet Paris-Nice a pris 40% en 10 ans.
Très, très, très forte impression des Bleus cette nuit.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Oui, on avait peur de la Suède hier matin à cette heure-là. Bon, bah, finalement, les Bleus se sont qualifiés en huitième de finale en battant cette équipe de Suède. 3-0 à New York, but de Bradley Barcola et surtout encore un doublé de Kylian Mbappé, son troisième quand même depuis le début du mondial. Il a couru vers le sélectionneur Didier Deschamps après son premier but, mais plus largement et à l'image de Michael Olise comme chef d'orchestre Florent Germain, les Bleus ont encore épaté tout le monde.
Oui, les Bleus ont écœuré la Suède et fait forte impression. 3-0, des Suédois dépassés, des buts et des gestes de grande classe. Le sélectionneur Didier Deschamps savoure, mais doit quand même calmer le jeu.
Oh là, non, il y a toujours forcément des problèmes, même quand il y en a, moi j'en ai pas. Il y a des choses à améliorer, toujours. Non, allez-y, trouvez des problèmes, c'est bien, il faut pas que ça soit tout beau, tout rose. On va pas tomber dans l'euphorie non plus, on est en huitième, il faut apprécier.
La démonstration de technique et de puissance des Bleus ne va pas calmer l'euphorie des supporters français.
Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant et on a certains joueurs qui ils font des fulgurances phénoménales.
On va forcément aller loin dans la compétition. On peut parler des triplés de Messi, etc. Mais je trouve qu'on est vraiment favoris.
Nous, on veut la finale. On veut se retrouver ici, en fait, le 19. Allez les Bleus !
Pourtant, le capitaine Kylian Mbappé envoie un message. La France est en mission et ne va pas se laisser flatter par tant d'éloges.
Je pense que l'équipe est parfaitement consciente de ce qu'on doit faire ici. C'est l'idée de ce groupe, c'est l'ADN de ce groupe. On est tous ensemble.
En tout cas, le sélectionneur de la Suède l'a reconnu. La France est la meilleure équipe qu'il a vue depuis le début de la Coupe du Monde.
On continue notre chemin tous ensemble, a répété Kylian Mbappé il y a une heure environ dans un message sur ses réseaux sociaux publié depuis l'avion qui ramène les Bleus à Boston. Alors la prochaine étape, eh bien ce sera le Paraguay en huitième de finale. Ce sera samedi à 23h dans le stade de Philadelphie.
Alors est-ce que vous êtes confiant ce matin pour nos Bleus? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que cette équipe vous fait rêver? Vous êtes les bienvenus, on en parle ensemble ce matin au 32-16.
En ce moment, il y a le Mexique, un des pays hôtes qui joue contre l'Équateur. 2-0 pour les Mexicains, bien parti pour ce qualifiés eux aussi. Le coup d'envoi a été décalé en raison des orages. Et hier soir, c'est la Norvège qui a mis fin au rêve de la Côte d'Ivoire en gagnant 2-1 avec un but d'Erling Haaland dans les toutes dernières minutes de jeu.
Il est 5h03 sur RMC. Le scénario d'une nouvelle canicule se précise.
Alors, il y aura sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end, prévient Météo France. La première au mois de mai a causé au moins 300 morts de plus qu'en temps normal dans les 17 départements qui étaient concernés. C'est une première estimation de Santé publique France. On a pas encore de chiffres pour la deuxième. Les écologistes déposent une mention de censure contre le gouvernement et cette gestion de cette semaine du mois de juin en avançant quand même le chiffre de 10 000 morts. C'est faux, c'est scandaleux, leur répond le Premier ministre Sébastien Lecornu qui est sorti de ses gonds hier à l'Assemblée nationale, Sonia Gobry.
Vous avez des morts sur la conscience. C'est cette phrase de l'écologiste Cyrielle Chatelain qui provoque la colère de Sébastien Lecornu.
Je ne souhaite pas polémiquer. C'est votre question qui a introduit cette polémique. Vous ne pouvez pas de vous-même dire que rien n'a été fait ces dernières années. Donc de grâce, Madame la Présidente, un peu de dignité et de responsabilité.
Cyrielle Chatelain réplique en annonçant le dépôt d'une motion de censure.
Quelle fébrilité de la part du Premier ministre. Je ne l'ai jamais vu sortir de ses gonds comme ça. C'est vraiment qu'il doit avoir mauvaise conscience. Le gouvernement sait qu'il n'a pas agi, pour limiter le réchauffement climatique qui continue à s'aggraver.
Cette motion de censure a peu de chances de passer. Le député PS, Guillaume Garot.
Est-ce qu'une motion de censure serait la réponse à tout ça au moment où il y a besoin d'agir? Moi, j'en suis pas convaincu.
Pas convaincu, c'est ce que répondent aussi des députés RN et leurs voix sont nécessaires pour faire tomber le gouvernement.
La politique ce matin, c'est aussi le calendrier de la prochaine élection présidentielle. Les dates sont tombées. Le premier tour aura lieu le 18 avril pendant les vacances scolaires et le second le 2 mai. Au lendemain du premier, donc, jour de la fête du travail, avec les défilés traditionnels dans la rue, ça n'a jamais été aussi proche de cette journée-là. En attendant, il faut que vous écoutiez la sortie d'Emmanuel Macron, sortie sur la peine de mort après plusieurs faits divers qui ont bouleversé les Français là, ces dernières semaines. Alors aussi qu'un sondage montrait récemment que 68% des Français étaient favorables à un référendum sur la peine de mort pour les crimes qui touchent les enfants. Eh bien, le président a pris la parole à ce sujet, c'était hier, à l'occasion du congrès mondial contre la peine de mort qui se déroule à Paris.
Et l'espérance d'une abolition universelle constitue un horizon accessible. Toutefois, les risques demeurent dans beaucoup de pays, et quand je vois les débats dans nos pays, je considère que rien n'est acquis. Ne pensez pas que vous êtes les combattants d'une cause qui vaut pour tel ou tel pays qui n'a pas encore aboli. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ce débat revient. Beaucoup se remettent à penser que la peine de mort serait une réponse. Alors ne croyez pas une seule seconde que le combat qui est le vôtre ne vaut pas aussi pour ici. Et pour aujourd'hui.
Il est 5h06 sur RMC et le collège de Notre-Dame de Bétarame fermera bien ses portes à la rentrée.
Au cœur d'un scandale, vous le savez, de violence physique et sexuelle, eh bien c'est désormais confirmé par l'enseignement catholique. Ce bâtiment blanc à flanc de montagne qui jouxte le gave de Pau et qui a fait la une des journaux pendant plusieurs semaines fermera donc à la fin de l'année scolaire. Bon, une fermeture qui est surtout symbolique à Inès Zeglou là.
Dès la rentrée prochaine, tous les collégiens de Beauramo, le nom de l'établissement depuis 2009, prendront dans la commune d'Igon, à seulement 4 km de là, mais loin du giron des Pères de Bétarame. Les 170 élèves, l'équipe éducative vivent donc leurs dernières heures dans l'enceinte de l'ancien bâtiment. L'ambiance devenue pesante, les encadrants, les familles attendaient donc impatiemment le déménagement. Il était temps, nous confient les représentants de l'enseignement catholique. Une page se tourne donc pour le site, certes, disent-ils, mais pas pour les victimes. Restent les enjeux de réparation. Et puis reste aussi cette question, que va devenir l'intimidant bâtiment de Bétarame ? Rien n'est figé, mais certains dans l'enseignement catholique plaident en tout cas pour qu'il devienne un lieu dédié à la mémoire.
Et alors si on parle de la rentrée de septembre, déjà, c'est parce qu'on est le 1er juillet ce matin et que l'année scolaire se termine officiellement. Eh bien, à la fin de la semaine, vendredi, ensuite ce seront les grandes vacances. Et alors, c'est pas une impression, partir en vacances coûte de plus en plus cher. Un club automobile a fait les calculs en prenant l'exemple d'un trajet donc entre Paris et Nice, dont le coût a augmenté de 40%. C'est énorme, en 10 ans. La faute au péage et au carburant, Amélie Courtet.
Oui, difficile à croire, mais il fut un temps en 2016 où le diesel était à 1,13€ le litre, 1,30€ pour l'essence. Des prix qui n'ont cessé de progresser ces dernières années, dépassant largement l'inflation, jusqu'à atteindre un pic historique au printemps dernier au-dessus des 2€ le litre. Résultat, pour un Paris-Nice, il faut compter en carburant 40€ de plus qu'il y a 10 ans. À cela s'ajoute le prix des péages qui, eux, sont passés de 76 à 91€ sur ce même trajet. La tendance est la même, hein, si vous optez pour d'autres destinations. La Bretagne, par exemple, quand on additionne carburant et péage, le trajet Paris-Brest a augmenté de 32€ depuis 2016. Alors, pour freiner ces dépenses, l'étude conseille de comparer les prix des stations essence avant de prendre la route, ou bien de décaler son départ pour éviter les embouteillages.
Bon, vous avez fait les comptes, peut-être. Ça reste moins cher que le train, hein. C'est la réflexion qu'on se faisait, mais entre le péage et les carburants, heureusement, ça a baissé un peu, là. Hein. Vous êtes en train de faire les comptes. Ça coûte de plus en plus cher de partir en vacances en voiture. C'est votre cas, hein, peut-être, l'été prochain, les vacances qui arrivent. Vous nous le dites au 32-16.
Et puis, comeback, tiens, raté pour Serena Williams, l'américaine de 44 ans, éliminée en 3-7 dès le premier tour du tournoi de Wimbledon, où elle faisait son grand retour en simple, c'était hier. Grand retour après 4 ans de pause.
Merci Quentin Vinet, c'était le journal de 5h et on va tout de suite rejoindre Edgar Grelot pour suivre le match Mexique-Équateur qui est en cours, qui a repris. Hein.
Oui, ça vient de reprendre il y a quelques instants, toujours 2-0 pour le Mexique face à l'Équateur, et le Mexique qui repart très très fort avec déjà une occasion pour Roberto Alvarado, une frappe non cadrée. Les Mexicains qui dominent largement ce 16e de finale face à l'Équateur, 2-0 après 47 minutes de jeu.
Merci beaucoup Edgar, on vous retrouve évidemment tout au long du morning. Et Jonathan est en ligne avec nous depuis un autre pays organisateur. On était au Mexique. Jonathan est au Canada. Salut Jonathan.
Bonjour.
Jonathan qui est au Canada mais qui a jamais été aussi fier d'être français, je crois. Hein.
J'ai jamais été aussi fier d'être français de ma vie.
Ah, vous avez suivi le match alors Jonathan?
Bien sûr, j'ai écouté à la radio, à RMC.
Ah, très bon choix ça.
Depuis hein. le Canada, Jonathan, j'essaie de réfléchir. Il est quelle heure chez vous là? Ça dépend d'où vous êtes au Canada.
Nous, il est 23h là.
23h, donc plutôt côté est, c'est ça Jonathan?
Là, on écoute le Mexique.
Oui, bah écoutez, on a Edgar Grollo qui va nous faire vivre ça, 2-0 pour le Mexique. Vous avez suivi ce match, vous êtes confiant pour les Bleus, Jonathan ?
Eh oui, on va gagner cette année, encore une fois.
Encore une fois, on le dit avec une simplicité. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu d'une... Oui, on va gagner.
Mbappé, il est bouillant.
Il est bouillant, bah oui, oui.
Oui, 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 c'est sûr que par rapport au débat qu'on a pu avoir avant la Coupe du Monde, Mbappé, il rassure quand même, là.
C'est ça, à la Madrid, surtout.
Ouais, Jonathan, merci beaucoup. Jonathan, vous bossez
merci
dans un
vous,
hôtel de nuit au Canada.
Bah, bonne nuit à vous, parce qu'il est 23h. Donc, ouais. J'imagine qu'après Mexique-Équateur, Jonathan va aller se coucher.
Je sais pas, ou alors ici. Jonathan, vous faites quoi ? Vous travaillez la nuit à l'hôtel ?
Non, je travaille la journée.
Ah, donc là, vraiment, vous êtes à la maison et avec RMC pour suivre le mondial ?
C'est ça.
Continuez, ne changez surtout rien, Jonathan. Merci de votre appel depuis le Canada au 32-16 ce matin.
Il est 5h10 et dans un instant, c'est l'heure de la solution conso avec Géraldine. On se projette sur...
Sur un festival. Ah, oui. On avait peut-être prévu cet été. Et oui. Vous savez, on paye beaucoup maintenant avec les bracelets sans contact, avec cashless. Alors, ça peut être pratique, mais attention, ouais, il y a des frais cachés.
Ouais.
C'est un enfer.
Ah ouais.
Ah, tu préfères perdre ta carte bleue en plein festival, toi.
Ouais, j'adore. Ouais, non, mais les frais cachés, j'aime pas, Mathieu. Non, déjà, d'accord. Ça coûte plus cher d'aller en vacances, donc...
Puis ce matin, on va revenir sur les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ils sont en place depuis septembre dernier. On en avait parlé. Alors, quels enseignants est-ce qu'on peut en tirer ? Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour.
C'est le choix de la rédaction ce matin.
Ah ouais, alors on le voit tous les jours, hélas, dans les affaires qui touchent les enfants, ces programmes sont essentiels. Et pourtant, il y a encore beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu en bénéficier pleinement.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Et 5h13 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Et ils ont fait couler beaucoup d'encre, les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les élèves de la maternelle jusqu'à la terminale. Ils sont mis en place depuis la rentrée de septembre dernier à raison de 3 séances obligatoires par an.
Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour.
Vous êtes chef du service société et vous nous révélez, c'est une information RMC ce matin, que seuls 6 enfants sur 10 en primaire, seuls 6 enfants sur 10 ont suivi les 3 séances obligatoires selon le ministère de l'Éducation, des séances qui sont pourtant essentielles à la protection de l'enfance.
Ah oui, c'est comme si je vous disais que seulement 6 élèves de primaire sur 10 ont suivi tout le programme de maths ou d'histoire, car depuis cette année, l'éducation à la vie affective est un programme scolaire au même titre que les autres. Alors qu'est-ce qu'on y apprend ? En primaire, par exemple, les enseignants expliquent aux enfants que leur corps leur appartient, la notion d'intimité, de consentement, ce qui fait que ces programmes protègent les enfants et entraînent même une libération de la parole. Écoutez bien ce témoignage d'une directrice d'école en Ile-de-France qui a mis en place des séances d'éducation à la vie affective du CP au CM2, ce qui a provoqué beaucoup de confidences d'enfants.
4 enfants ont parlé, en fait, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Ils en ont parlé à leur enseignant. Qui m'en a parlé ? Un enfant a été forcé à assister à une situation de fellation. Après, moi, je n'auditionne pas les enfants. Hein, je lance des informations préoccupantes. C'est factuel. Hein. On ouvre les guillemets et on cite.
En fait, Bérangère, ces cours d'éducation à la vie affective, c'est de la protection de l'enfance.
Ouais, à l'école primaire, comme au collège ou au lycée d'ailleurs, hein, où il y a d'autres enjeux, comme par exemple lutter contre les mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Audrey Chanona est responsable des questions d'éducation sexuelle pour le syndicat de directeurs d'établissement SNPDEN, mais aussi principale de collège à Cognac.
J'ai traité, par exemple, cette année, 2 affaires avec 3 mois d'écart d'un élève de 3e qui a eu des relations sexuelles avec une jeune fille pour pouvoir, en fait, imiter ce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a abouti à 2 affaires de viol. Parce qu'en fait, pour lui, c'était complètement normal de pas accepter le consentement. Tant pis si la jeune fille disait non, parce que de toute façon, à la fin, elle allait dire oui. Et ça s'est terminé par 2 signalements au procureur.
Alors, quand on entend ces témoignages, on comprend l'importance de ces cours. On s'étonne qu'il n'y ait pas plus de 6 élèves sur 10 en primaire qui aient suivi les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle.
Oui, alors la raison principale, c'est qu'il n'y a pas assez de formation et tous les enseignants ne sont pas à l'aise avec ces questions. Hein. Les parents le savent, ce n'est pas toujours simple d'aborder ces sujets. Et pour Audrey Chanona, quel que soit le niveau, le compte n'y est pas du tout.
Les classes qui ont eu les 3 séances annuelles sont en réalité extrêmement rares. Que ce soit en primaire, en collège ou en lycée, on est très loin du compte. Et très vite, certaines académies se sont retrouvées débordées par le fait qu'elles n'avaient pas accès de formateurs. Ce qui fait que sur le terrain, les enseignants n'ont pas été formés comme ils l'auraient véritablement dû.
Il y a un autre frein, peut-être, Bérangère, au déploiement de ces programmes, c'est l'opposition de certains parents, non ?
Oui, mais là, surprise, hein, alors que le syndicat de la famille, l'ex-manif pour tous, ou les parents vigilants proches d'Éric Zemmour étaient critiques de ces programmes, il y a finalement très peu de parents qui se sont plaints des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est ce que me rapportent plusieurs directeurs d'établissement.
Sur toute école, il y a un parent qui a dit que son enfant ne viendrait pas à l'école si on parlait de ça.
On a expliqué en début d'année en réunion de rentrée au niveau des parents qu'on allait dispenser ce type d'enseignement et on n'a pas eu de réaction plus que ça. Je pense que les parents nous font vraiment confiance ici et puis je pense que la société évolue. Je pense que c'est une protection pour les enfants et que ça, les parents maintenant le comprennent bien.
Des directeurs qui estiment que ces séances doivent être une priorité du ministère. Pour rappel, 3 enfants par classe sont victimes d'inceste.
Ça se passe comment chez vous, dans l'école de vos enfants? On en appelle ce matin aux enseignants comme aux directeurs d'école. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au 32-16, les parents d'élèves. Alors ça s'est fait dans la douleur, c'est peut-être exagéré, mais dans pas mal de débats, de discussions qu'on a pu avoir avec beaucoup de fake news agitées par, vous les citiez, l'ex-manif pour tous ou les parents vigilants. Aujourd'hui, c'est mis en place chez vous ou pas? Est-ce que vos enfants ont eu ces cours-là, les 3 séances ou pas? Vous nous le dites au 32-16 ce matin, on va avoir ce débat avec vous en direct. Il est 5h17.
Et c'est l'heure des choix de la bande avec ces petites infos qu'on a dénichées dans la presse. C'est l'heure aussi d'accueillir Mathias Luguin. Salut Mathias.
Salut, bonjour à tous.
Ça va bien ce matin?
Bah oui, petite nuit.
Petite nuit, oui.
Vous avez suivi tout le match?
C'est la pleine lune des fraises. C'est la pleine lune des fraises.
Ah oui.
Ouais. Bah voilà, je vous donne l'info.
Ça veut dire quoi?
Bah ça veut dire qu'on dort mal.
Ah ok.
Voilà.
Non, chaque mois la lune, elle a un nom différent. Et voilà, là c'est la fraises. Saison des fraises, donc c'est la pleine lune des fraises. Et ça marche beaucoup avec l'agriculture.
Ok.
C'était pas ça ma petite info dénichée dans la presse.
Hein.
J'en ai une.
T'as mieux. T'as mieux quand même.
J'ai bien mieux.
On t'écoute.
Je vais vous parler de Séverine Benet, ce matin. Séverine Benet, qui vit près de La Rochelle et à qui on a répété la même chose pendant toute sa vie. Qu'est-ce que vous ressemblez à Céline Dion? Pourtant, elle a longtemps nié l'évidence, c'est ce qu'elle confie à nos confrères du Parisien, jusqu'à ce concert au Stade de France en 1999. Alors, il aura fallu du temps pour qu'elle se lance. Vous me voyez venir, Séverine Benet est devenue la sosie de Céline Dion. Alors, pas sosie officielle, mais sosie autoproclamée. C'est désormais son métier, c'est très sérieux. Elle a été licenciée en 2022, Séverine, et elle a tenté un casting télé, puis elle s'est lancée sur TikTok. On voit les images en ce moment même sur RMC Story. Le déclic, une vidéo vue 22 millions de fois. Aujourd'hui, elle compte 1 700 000 abonnés et elle performe à des soirées, à des mariages, à des spectacles. Elle qui a connu les galères, les factures impayées et les coupures d'électricité y voit une revanche méritée. J'ai envie de dire I'm alive, comme et dirait voilà. Céline Dion.
La première partie de Céline.
C'est un peu bizarre de faire sa première partie avec son sosie, je pense pas, mais peut-être bien. Qu'elle rencontrera
tout est,
Céline.
Tout est bizarre dans cette info, Elisa. C'est pas un peu
non,
bizarre.
Mais, vrai, moi, vous connaissez mon
Céline,
adoration pour Céline Dion, donc même les sosies, je
et
prends.
Du coup, tu deviens aussi fan de Séverine Benet.
Exactement, voilà, même, okay. On embrasse Séverine.
Alors moi, je vais vous parler de... On croise les doigts pour Eliam ce matin, et on espère qu'il aura son bac. Écoutez son histoire. Quelques jours avant les oraux du bac, ce jeune garçon de la région d'Angoulême est victime d'un grave problème cardiaque, direction les soins intensifs, impossible d'imaginer rejoindre son lycée alors qu'il a révisé, alors qu'il est prêt pour les oraux du bac. Et c'est là que, bon ça c'est inédit, le lycée est venu à lui. En fait, à la demande de son cardiologue, le proviseur a organisé en urgence le déplacement du jury à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital. L'épreuve s'est déroulée comme prévu, au milieu des appareils médicaux. Même depuis l'hôpital, on peut faire des choses, dit-il. Sur la chambre d'hôpital d'Eliam, jeudi dernier, on pouvait lire « Épreuve du baccalauréat en cours, ne pas déranger ». Et au sein du service de cardiologie, tout s'est bien passé. Alité, il a planché, répondu à 2 professeurs venus l'évaluer. Alors l'examen s'est pas trop mal passé, a priori, dit-il. On aura les résultats du bac lundi.
Bah quel courage.
Ah ouais, franchement. Ouais, mais après, tu te dis, quand t'as révisé, t'as bossé, t'as pas envie de te dire, je vais raconter l'année prochaine. Un flop, Mathias?
Oui, celui de la campagne anti-drogue hongkongaise, la dernière en date. C'est le gouvernement qui l'a mis en ligne. C'est une vidéo qui a été générée par IA, dans laquelle on voit 4 pop stars baptisées Weedy, Icy, Coq et Little E. À chaque fois, c'est une référence à un stupéfiant. Et tour à tour, eh bien, elles vantent la substance qu'elles représentent.
Oh, 我是冰儿。
oublier ses soucis, améliorer la concentration ou partir dans l'espace. Voilà ce qui est dit. Et à la fin, tout bascule parce que ces jeunes chanteuses se transforment brutalement en personnes âgées. Et on vous rappelle que la drogue, c'est mal et que ça détruit des vies. Alors, si elle a fait scandale, cette campagne, c'est parce que certains la qualifient de meilleure publicité pour la drogue jamais réalisée à Hong Kong, comme si on la rendait attractive. Bon, ça fait tellement de bruit qu'on a fini par retirer le clip. C'est pas une première, hein. C'est plutôt un comble parce que à Hong Kong, la loi est très sévère dans le domaine. Le trafic de drogue est passible de prison à vie. Ah oui. Et la simple possession, eh bien, ça peut vous en coûter jusqu'à 7 ans de prison.
C'est suffisant comme campagne de prévention. Je sais pas pourquoi ils ont mis des...
J'oserais même pas faire des blagues sur la campagne de prévention. Il est 5h21 sur RMC. RMC Story, très bon réveil à toutes et à tous. Les trois grands titres à la une ce matin.
Et nos Bleus qui rejoignent le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde après leur victoire 3-0 cette nuit face à la Suède. Prochain match de l'équipe de France samedi prochain. Ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Premier tour le 18 avril, second tour le 2 mai. Le Premier ministre, lui, fait face à une motion de censure déposée par les écologistes qui estiment qu'il aura, je cite, des morts sur la conscience après les canicules qui ont frappé le pays.
Il est 5h22.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, les astuces conso de Géraldine de Maury. Alors l'été, c'est bien sûr la saison des festivals. Et on y voit de plus en plus de bracelets de paiement. C'est pratique. Mais Géraldine, est-ce que c'est économique ?
Eh ben pas toujours, c'est bien le problème. Oui, pratique, ça c'est clair, hein. On n'a pas besoin de prendre de billets, de pièces, hein, au risque de les perdre. Souvent, il suffit, c'est assez simple, hein, il suffit de mettre de l'argent sur son bracelet avant de partir, puis une fois que vous êtes sur place, bah, vous payez avec, en sans contact, hein, pour boire, pour manger, pour acheter le t-shirt de votre groupe préféré. Si vous avez bien estimé l'argent que vous allez dépenser, là, il n'y a pas de problème globalement. En revanche, si vous en avez prévu trop, bah, ça peut vite se gâter.
On peut se faire rembourser, non ?
Ah oui, en théorie en tout cas, parce que dans la pratique, il faut demander déjà le remboursement, donc il faut y penser. Et il ne faut pas traîner parce qu'il y a une durée limitée pour le faire. Et évidemment, c'est un délai qui n'est pas le même selon les organisateurs de festivals. Sinon, ce serait trop simple. Et c'est un flou qui arrange bien justement ces organisateurs. Au Hellfest, qui vient d'avoir lieu, n'est-ce pas Mathieu ? Vous aviez le petit bracelet
Oui. Et bien, c'est une trentaine d'euros à récupérer.
Il l'a pas encore fait.
Mais pardon, excusez-moi, on vous rend la monnaie au resto, si vous partez pas avec, vous allez pas engueuler le resto.
Il y a 5 à 10% hein, des festivaliers au Hellfest qui n'ont pas réclamé ce qu'ils avaient mis en trop sur leur bracelet. Avec selon.
On nous propose de donner à une association.
Bien sûr, ça on peut le faire aussi. Mais pour les vieilles charrues, les organisateurs parlent quand même de 50 à 100 000 euros non réclamés à la fin du festival. Bon, bah ça fait un bon bonus quand même. Et puis il y a des frais aussi qui sont pas toujours très bien annoncés. Vous avez parfois des frais d'ouverture au moment de charger son bracelet, donc ça c'est souvent autour de 1 euro. Des frais aussi qui peuvent avoir lieu au moment du remboursement. Et si vous n'avez pas assez d'argent sur votre bracelet à la fin pour vous faire rembourser, il y a certains organisateurs qui refusent carrément le remboursement. Et évidemment, les règles changent en fonction des festivals, donc c'est pas simple de s'y retrouver. Oui, le cashless c'est très pratique, mais regardez bien les conditions avant de créditer votre bracelet.
La solution conso à retrouver sur l'appli RMC et à partager bien sûr tous les matins en podcast et en direct, Géraldine de Maury. Il est 5h24.
Et dans un instant, c'est le meilleur d'Arnaud Demanche et vous au 32-16. À tout de suite.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h25 sur RMC et RMC Story.
Et ça, c'est la chanson avec laquelle s'ouvre et se conclut le film Voicemails for Isabelle, si tu m'écoutes en français, une production Netflix qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux pour son prétendu pouvoir à vous faire pleurer en 15 minutes chrono. Alors, comme j'adore les défis et que j'adore pleurer, je suis poisson, hein, c'est le signe astrologique des fragiles, et ben,
entre la lune de Carole.
Ben, bien sûr, j'ai regardé le début de ce film jusqu'à la 15e minute, donc, où l'héroïne perd sa sœur. Je ne divulgâche rien, c'est dans le synopsis. Décès accompagné pourtant de la très efficace et larmoyante chanson de The Cinematic Orchestra. Eh ben, je vous l'annonce, pas une larme. Que dalle, rien.
Cœur de pierre.
Mais alors attention, il y a un plot twist, comme disent les experts ciné dont je ne suis pas. Moi qui devais me contenter des 15 premières minutes de ce film pour le test, donc je suis restée accrochée tout du long, jusqu'à la fin, jusqu'au match des Bleus, donc 23h. C'est ça le retournement de situation. En fait, j'ai adoré cette comédie romantique et sa bande-son. Là où on nous promet des larmes, vous aurez des rires. C'est hyper drôle, c'est cynique, c'est inspiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, celle d'une jeune femme qui continue de laisser des messages vocaux à sa défunte sœur jusqu'au moment où le numéro est réattribué à celui qui va finalement tomber amoureux d'elle. Le tout sur une playlist qui va ravir les fans de Taylor Swift. Alors évidemment, on retrouve tous les codes de la comédie romantique, la pluie, la course à pied sous la pluie, la fin qu'on a vu venir à 10 bornes, mais franchement c'est très réussi et d'ailleurs le film est dans le top 10 du classement mondial de Netflix, c'est pas pour rien.
Je voudrais quand même raconter nos échanges. Hier soir, dans un groupe WhatsApp avec toute l'équipe, je dis quelqu'un a vu ce film, est-ce que quelqu'un a chialé? Élise, tout seul, elle dit moi je vais le regarder.
Je l'ai testé pour vous et je suis sensible.
Pas pleuré. Hein. Elle pas pleuré.
Mais vous allez rire si vous le regardez.
5h27 sur RMC et RMC Story.
On joue ou pas?
Allez, on joue.
Allez,
on n'a pas prononcé le mot caché.
On va y arriver, c'est le mot caché. Si vous l'identifiez, vous envoyez mot au 7 32 16 et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner vos vacances dans un camping au mer.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Jouez sur RMC avec Omer, des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Omer, 400 campings, 400 raisons de revenir.
Et à 5h28, il revient tout à l'heure hein, en direct dans Apolline Matin, mais on se met tout de suite dans l'ambiance avec le meilleur d'Arnaud Demange.
Gabriel Attal qui veut surfer sur la Coupe du Monde et l'engouement autour des paris sportifs.
Oui, parce qu'il vient de sortir, vous avez peut-être vu, un concours de pronostics. C'est sur son appli de campagne, Gabriel, sur l'appli Attal Président.
D'accord.
Il y a des petites vidéos où il parle, il dit « Je pronostique 2-1 pour la France et si tu me bats en pronostic, il y a une surprise ». Et c'est quoi la surprise?
C'est la question que j'allais vous poser, c'est comme la tombola.
Si vous trouvez tous les scores des Bleus, vous devenez Premier ministre.
Ah ouais.
Il n'y a pas le choix, hein, tous mes soutiens, ils se barrent. Vous avez vu, il a perdu Maude Bréjon hier.
Eh ouais.
Alors c'est dommage, mais moins que s'il avait gagné, Maude Bréjon.
Oh.
Alors j'espère qu'il ne mise pas toutes ses économies en paris sportifs, fatal. Sinon Macron, il va gueuler. Gabriel, je peux savoir ce que tu fais avec ton téléphone et ma carte bleue? Attendez, hein, papa président, j'ai trouvé un moyen de combler la dette du pays. Je vais la jouer sur Winamax. Mais enfin, t'as mis 1 milliard sur la victoire des îles Curaçao face au Brésil. T'es ma boule. Ouais, t'as confié les finances du pays à Bruno Le Maire. Hein, t'es joueur aussi.
Arnaud Demange qu'on retrouve à 7h20 et 8h20 en direct dans Apolline Matin.
Et on retrouve tout de suite Edgar Grollo pour Mexique-Équateur. Il vient d'avoir une action impressionnante, non?
Oui, énorme occasion pour le Mexique de prendre 3 buts d'avance après 67 minutes de jeu, toujours 2-0. Mais là, c'était le capitaine César Montes, le capitaine de cette équipe mexicaine qui avait repris ce ballon de la tête sur corner et un superbe arrêt de Galindez. Et derrière, sur le corner suivant, Montes qui avait de nouveau battu tout le monde dans les airs, mais cette fois-ci qui n'a pas cadré sa tête. Double occasion immense pour le Mexique de tuer définitivement ce match. Mais honnêtement, pour l'instant, quand on voit la physionomie de ce match, on a du mal à imaginer les Équatoriens revenir parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à se montrer dangereux. 68e minute de jeu, 2-0 pour le Mexique face à l'Équateur en 16e de finale de la Coupe du Monde.
Et on vous retrouve plus tard, Edgar Grollo. Vous suivez ce 16e de finale Mexique-Équateur. Géraldine, le temps aujourd'hui?
C'est la pause fraîcheur hein, là-bas.
On reste en vigilance orange canicule sur le sud-est, Var, Alpes-Maritimes et Corse, avec une nuit qui est restée encore étouffante, alors qu'ailleurs, on respire quand même nettement mieux. Les températures cet après-midi qui vont rester donc très importantes sur le sud-est, bien sûr, avec 37 à Toulon, 35 attendus à Marseille, 34 à Montpellier, 31 à Lyon, il fera 27 à Paris, 26 à Bordeaux, 24 à Lille, avec quelques nuages, un peu de pluie vers la Manche ou au sud de la Garonne pour ce matin. Puis attention encore aux orages près des frontières de l'Est cet après-midi. On profite d'un peu de fraîcheur. Vendredi, les températures repartiront à la hausse. Et donc, on s'attend à une nouvelle canicule, au moins au sud de la Loire, à partir du week-end.
Il est 5h30.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Elise, bonjour à tous.
Le décès d'une patiente à l'hôpital en pleine canicule.
Hospitalisée pour une sciatique, Monique est morte dans sa chambre, accablée par la chaleur. Ses proches témoignent ce matin au micro RMC alors qu'une nouvelle vague caniculaire se profile. Le congé naissance débarque pour le plus grand bonheur des jeunes parents. Et les Bleus qualifiés sans trembler face à la Suède, 3-0 avec le Paraguay désormais dans le viseur d'une équipe de France en pleine confiance. Les températures devraient repartir à la hausse dès la fin de la semaine, alors même que le bilan du dernier épisode n'a pas encore été établi. Si on sait qu'au moins 300 décès de plus que la normale ont été enregistrés en mai, Santé publique France parle d'un millier de morts supplémentaires en juin. Parmi eux, Monique, une femme de 84 ans, décédée à l'hôpital dans le Nord jeudi dernier en pleine canicule. Marion Gauthier, elle avait été admise 2 jours plus tôt.
Entrée pour une sciatique, sous morphine, Monique dépérit sur son lit dans la pénombre et l'air chaud d'un seul ventilateur, décrit son auxiliaire de vie.
Il fait extrêmement chaud, vraiment. Même moi, c'est suffocant.
Un climatiseur est acheté par la famille avant une dernière visite.
J'ai mis le climatiseur en route et là, il y avait écrit 39. Je me dis que c'est complètement dingue. Je passe des glaçons dans son dos pour la rafraîchir au maximum. Je dis, là, t'as à boire, il faut que tu te reposes, tu reprends des forces et demain matin, j'arrive. Et il n'y aura jamais de demain matin.
La culpabilité de celle qui avait fini par appeler Monique mamie.
Moi, je suis dévastée. Pardon.
Et la colère de sa fille.
En fait, on est sonné en 36 heures. Ma mère est morte en 36 heures pour une sciatique. Oui, elle avait des pathologies. Mais quand elle est arrivée à l'hôpital, il n'y avait rien. C'est la chaleur qui l'a fait décompenser, en fait.
Catherine revient sur l'annonce du décès à 4 heures du matin. Sans explication, dit-elle, elle raconte cet appel de la chambre mortuaire qui déborde et ne peut accueillir un corps de plus.
Ça paraît irréel. Quand on dit il va y avoir 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, c'est pas des petits bâtons qu'on fait sur un mur. Ce sont des familles qui sont dévastées.
Contacté, l'hôpital n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Accusé d'avoir des morts sur la conscience, le Premier ministre est sorti de ses gonds hier à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a jugé scandaleux et faux le bilan de 10 000 morts de la canicule la semaine dernière avancé par les écologistes qui ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. 4 départements du sud de la France restent ce matin en vigilance orange à la canicule. 6 autres sont concernés par un risque très élevé d'incendie.
Vous avez des morts sur la conscience, dit la présidente du groupe écolo qui veut déposer une motion de censure. Passe d'armes assez vive avec le Premier ministre. Il y a ce qu'on en est là à chercher des responsabilités politiques. Ça vous fait peut-être réagir ce matin. 32-16, n'hésitez pas.
2 dates à retenir ce matin, à cocher dans votre agenda, le 18 avril et le 2 mai 2027, jour du premier et second tour de la présidentielle. Élysée a tranché en respectant les délais fixés par la Constitution et pour voter, il faudra s'adapter puisqu'elle tombe en pleine période de vacances scolaires.
Et parmi les candidats, il y a Jordan Bardella.
Il y a les candidats potentiels, il y a Jordan Bardella, oui, en cas de condamnation en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, dont la décision est attendue la semaine prochaine. C'est lui qui devrait lui succéder, le président du RN dans le viseur d'Anticor, soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif d'assistant d'un parlementaire européen en 2015. L'association de lutte contre la corruption a porté plainte contre lui et réclame qu'une enquête soit menée par un juge d'instruction. Jean-Baptiste Souffron est l'avocat de l'association Anticor.
Imaginez seulement qu'un candidat à la présidentielle puisse se présenter alors qu'il aurait menti, produit des faux pour tromper la justice. Bah, ce n'est pas acceptable. Là, on sait que l'enquête va pouvoir avoir lieu. On aura le fin mot de l'histoire. On saura si Jordan Bardella a bénéficié d'un système de détournement de fonds publics européens qui était mis au profit de son parti et à son profit personnel tendanciel. On saura s'il a couvert ce détournement par défaut ou si d'autres l'ont couvert par défaut. On va pouvoir faire émerger la vérité. Il y a de gros enjeux.
Et notez qu'en parallèle, des perquisitions ont été menées hier en France et en Europe sur des soupçons de détournement de fonds par le Rassemblement National et ses alliés européens du groupe Identité et Démocratie. Le parti de Jordan Bardella y siégeait jusqu'en 2024.
Alors c'est l'une des nouveautés de ce 1er juillet, l'arrivée du nouveau congé naissance.
1 ou 2 mois en plus des congés maternité et paternité pour les deux parents simultanément ou en alternance fractionnable et rétroactive pour tous les enfants nés en 2026. Ce congé rémunéré à hauteur de 70% le premier mois, 60. Le deuxième était très attendu par les nouveaux parents. Reportage à Paris, Louise Salé.
Ahmed sort de la maternité avec sa fille âgée de quelques jours. Cet ingénieur qui entame son congé paternité prendra également un congé de naissance.
J'envisage de prendre 2 mois à partir des 6 mois de la petite. Ouais. Et on retarde un peu l'entrée à la crèche de la petite. Ça me permet que la mère elle se repose un peu, on va dire.
Soulager la mère, c'est aussi ce que souhaite Robin.
Alors oui, on perd 30% de salaire le premier mois, 40% le deuxième mois, mais on veut vraiment profiter au maximum du bébé et donc on fera l'effort financier nécessaire, il n'y a pas de problème.
Pour Maxime, en revanche, c'est plus compliqué.
Moi, j'aimerais bien, mais vous savez, dans le foyer, on ne peut pas se permettre tous les deux de prendre ce congé.
C'est donc sa femme qui s'arrêtera plus longtemps car son salaire est plus faible. Même chose pour Anna, dont le bébé a 3 mois.
Les hommes gagnent beaucoup plus. C'est le salaire principal dans le budget familial.
Et ce congé de naissance qu'elle démarre aujourd'hui tombe à pic car son congé maternité vient de se terminer.
Trouver une garde, c'est très très compliqué. Toutes les crèches, les assistantes maternelles, tout commence en septembre.
Elle affronte donc un peu plus sereinement son été.
Encore une fois, étincelant Thibaut, nos bleus filant huitième de finale.
Match quasi parfait hier soir face à la Suède. Victoire 3-0 grâce à un doublé de Mbappé, un but de Barcola, deux passes décisives d'Olise. Les hommes de Didier Deschamps semblent intouchables dans cette Coupe du Monde. Ce n'est pas l'avis du défenseur tricolore Malo Gusto, les pieds bien ancrés sur terre.
Non, on ne sent pas invincible, ce serait, je pense, inconscient de dire ça, mais on sait qu'on on a la confiance avec nous, voilà, on sait que tout le peuple français est derrière nous aussi, on arrive à les faire vibrer, et je pense que c'est à nous de continuer comme ça, et voilà, montrer qu'on veut se battre pour la Coupe, tout simplement.
Et les Bleus désormais tournés vers la suite, samedi soir, 23h, huitième de finale, face au Paraguay, comme en 1998. À l'époque, les Bleus s'étaient qualifiés 1-0 aux prolongations. 28 ans plus tard, les supporters tricolores ne sont pas vraiment inquiets, même s'ils ont fait tomber l'Allemagne. Les Français rencontrés à la fan zone de Noisy-le-Grand se veulent confiants.
Le Paraguay, bon, ils sont gentils, mais voilà.
Moi, je pense que la France, voilà, il n'y a pas de doute sur le résultat du match.
Bah, le Paraguay, sans manquer de respect, c'est un pays qui fait pas peur. Hein. Ça va passer en quart très facilement.
Je sais que le Paraguay, on va passer.
Les Allemands, ils ont perdu contre la Paraguay. Nous, on va pas perdre. Nous, ce sera facile, nous. On a Mbappé, il va faire le taf.
France-Paraguay, samedi 23h sur RMC, ce sera juste avant Canada-Maroc et Brésil-Norvège le lendemain. Les Norvégiens ont bataillé hier soir pour se qualifier vainqueur de la Côte d'Ivoire 2-1. Ça joue en ce moment. Le Mexique mène 2-0 face à l'Équateur.
J'aime bien la confiance des supporters. Hier, on était là, attention, le match piège, la Suède, le piège suédois, etc. Là, c'est bon, vas-y, envoyez le Paraguay, envoyez toute l'Amérique latine, on les prend, on a Mbappé. Je sais pas, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là ? On est un peu contents à l'entrée de Victoire de Cledoux au
32-16.
Attends, Thibaut Texer, il nous racontait France-Paraguay de 1998. Oui, je m'en souviens très bien.
Les courses, peut-être.
Oui, peut-être.
Ça vous intéresse, c'est à Anguin aujourd'hui.
Exactement. Et c'est à 18h30, le 7. Le Graal est le favori de la Dream Team AMC, c'est un signe. Et l'outsider, c'est le 11. L'Ariano, le 7 et le 11.
Le Graal.
Merci beaucoup, Thibaut Texer. Gabriel est en ligne avec nous dans les Ardennes, Charleville-Mézières. Bonjour, Gabriel.
Oui, bonjour.
Vous réagissez à cette autre info qu'on développe ce matin. Le prix des vacances en voiture, de voyager en voiture, ça a augmenté deux fois plus vite que l'inflation. Ça a augmenté de 40% en 10 ans. Et vous, Gabriel, vous évitez l'autoroute, je crois.
Ouais, exactement. En fait, je me suis rendu compte de ça, hein, que c'était une rente pour les sociétés d'autoroute, hein, dont les actionnaires, eux, ils prennent pas l'autoroute. Ils vont à Hawaï avec d'autres moyens. Donc, moi, j'évite maintenant beaucoup l'autoroute. Je prends la nationale. Alors, c'est 2-3 heures de plus sur la destination. Mais on s'évite le péage et puis surtout on évite aussi on dépense moins d'essence. Hein, je dépense en moyenne 30% de moins d'essence sur une même destination. Et puis voilà, on profite du paysage, on profite aussi de coins de la France qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de visiter.
Ouais, finalement l'important c'est pas la destination, c'est le voyage quoi.
Exactement, voilà, le Cantal, le Périgord, des régions que j'aurais pas forcément eu le réflexe de visiter, mais voilà.
Par contre, Gabriel, vous avez des enfants en voiture avec vous ?
Non.
Ouais, alors, voilà, parce que quand est-ce qu'on arrive et la série
ni enfants ni animaux, hein.
La série de ronds-points de la nationale, ça peut être fatigant.
Animaux, j'ai quand même, hein, mais bon, les animaux se plaignent moins que ses enfants finalement.
C'est vrai ça, Gabriel. Ouais, c'est pertinent aussi.
Donc, Gabriel, c'est très vrai. Je déteste comparer mes enfants à mon chien, mais il est beaucoup plus sage en voyage. Merci Gabriel.
Merci.
Vous partez où, Gabriel, en vacances? Vous nous avez pas dit cet été?
Alors, moi, dans le Roussillon, ça fait à peu près 1000 km.
Mais et vous allez tout faire hors autoroute?
Ah bah ouais, je mets 2 heures mais je m'arrête et puis bon, il y a la beauté du paysage et puis il y a aussi le fait que on est quand même satisfait. Moi je préfère prendre 2-3 heures de plus mais finalement pouvoir me faire un super resto avec mes amis, ma famille.
Puisque c'est ça les vacances.
Voilà, c'est ça aussi et je pense que quand on a 2-3 heures de plus à faire, on peut aussi faire une petite pause, un petit resto sympa et tout ça.
Une autre façon de faire le trajet, de faire des économies en tout cas, parce que oui, péage et carburant, c'est ça qui fait exploser le prix. Merci Gabriel, finalement 2-3 heures si on fait vraiment des économies, je sais pas, vous allez nous dire, est-ce que vous aussi vous détournez de l'autoroute pour le péage comme pour le plein d'essence, vous nous le dites comme Gabriel au 32-16, 5h41.
Et dans un instant, c'est l'heure du mondial de Virginie. Salut Virginie Fulpin.
Oui, salut, on n'a pas beaucoup dormi, mais on est content quand même.
Ouais, voilà. Ça résume bien. Et puis si on essayait de mieux manger, manger. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète et peut-être même que c'est bon pour le porte-monnaie. À 5h50, notre invité est physiologiste. C'est Geoffrey Zoll, cofondateur de l'appli Mes Meilleurs Menus. Il va nous dire comment comment une alimentation positive et durable peut se faire tout en se faisant plaisir. Vous restez bien avec nous. On se retrouve dans une seconde sur RMC et RMC Story.
5-7, le Morning RMC.
Élise Danjean, Mathieu Béliard.
Il est 5h42 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. L'équipe de France est en 8e de finale. L'équipe de France. Ah oui, pardon, il y a un jingle. Oui. Jingle, j'ai Virginie.
RMC,
le mondial de Virginie.
Et en fait, il est tellement bien ce jingle, on veut pas s'en passer quand même.
Manquer un peu de sommeil, non?
Et vous, Virginie?
Ça va.
Après ce match de l'équipe de France qui est donc qualifiée en 8e de finale de cette Coupe du Monde, les Bleus qui n'ont fait qu'une bouchée de la Suède, 3-0 hier soir.
Masterclass, supériorité écrasante, spectacle éblouissant, voilà ce qu'on lit dans la presse étrangère ce matin. Le monde entier sous le charme de l'équipe de France et sur toutes ces artistes, Mbappé, Olysée, Dembélé, la planète s'extasie devant nos joueurs en haie. Olé, à part Lamine Yamal, le joueur espagnol dit, lui, que la France ne peut pas être meilleure que l'Espagne. Et il rappelle que c'est bien l'Espagne qui a gagné l'Euro 2024. Alors que le géorgien du PSG, Kvaratskhelia, a tweeté hier, allez les Bleus, on va la ramener à la maison, avec une photo de Dembélé et Barcola, qui sont ses coéquipiers parisiens, évidemment.
Les supporters des Bleus ont conquis New York.
Alors, on les avait vus en nombre à Times Square. Ils ont investi hier, avant le match, le pont de Brooklyn pour mettre l'ambiance. Dans la rue, vous savez, avec vue sur le pont, la photo d'une affiche mythique du cinéma américain. Vous reconnaissez ? Il était une fois en Amérique. C'est presque le titre qu'on a envie de donner à l'aventure des Bleus à la Coupe du Monde. On verra qui sera Robert De Niro, Noodles, dans le film. En plus, le 8e de finale des Bleus, c'est samedi, le 4 juillet, fête nationale américaine. On part donc aussi à la conquête de l'Ouest. J'évite de vous passer l'Amérique de Joe Dassin. En revanche, ça rappelle de mauvais souvenirs à l'équipe de France. Pour les plus jeunes, on avait fait retentir ce morceau au Parc des Princes pour ce qui on imaginait être la qualification des Bleus pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, sauf qu'ils ne sont jamais qualifiés. Voilà, de l'eau a coulé sous le pont de Brooklyn depuis.
Et le FBI veille sur la sécurité de cette Coupe du Monde, Virginie.
Plus de 1100 drones ont été détectés autour des sites de compétition depuis le début du mondial. Les appareils ont été soit brouillés, soit interceptés. Alors le FBI ne travaille pas tout seul. Il supervise un centre de coopération internationale auquel participent 46 des 48 pays qui jouent cette Coupe du Monde. Les deux qui n'en font pas part sont Haïti et puis l'Iran, évidemment, deux équipes éliminées après la phase de poule.
Le secrétaire américain à la sécurité intérieure a fêter l'élimination de l'Iran.
Mark Wayne Mullin a avoué avoir esquissé quelques pas de danse, chanté quelques morceaux et bu quelques verres pour célébrer la sortie de l'Iran de la Coupe du Monde. J'étais très heureux que l'équipe iranienne parte, dit-il. Jamais on n'a vu une équipe nous poser autant de problèmes. Les Iraniens disent la même chose des États-Unis. Ils ont même porté plainte auprès de la FIFA en estimant être l'équipe la plus maltraitée de cette Coupe du Monde.
Bon, les Iraniens sont rentrés, les Sud-Coréens aussi, et l'arrivée a été agitée.
Ouais, les joueurs et surtout le sélectionneur ont été copieusement hués à leur arrivée à l'aéroport de Séoul. Hong Min-bo a pourtant démissionné à la suite de l'élimination de son équipe, mais ça ne suffit pas aux supporters. Ils sont nombreux à carrément demander à ce qu'il ait plus le droit d'exercer son métier d'entraîneur en Corée du Sud. Ça va loin, ça va même jusqu'aux menaces de mort. Une enquête est en cours.
Neymar parle plus qu'il ne joue dans cette Coupe du Monde.
Il ne marque pas, il ne joue pas, mais il cause. Oui, Neymar a le temps d'observer tout ce qui se dit autour de la sélection brésilienne et il contre-attaque. Sympa. Il s'en prend à un économiste allemand qui a créé en 2014 un modèle de prédiction du vainqueur de la Coupe du Monde. Il avait trouvé l'Allemagne en 2014, la France en 2018, l'Argentine en 2022, bravo à lui. Mais là, il avait donné les Pays-Bas, les Marocains se sont chargés de lui donner tort. Il avait aussi prévu l'élimination du Brésil par le Japon. Encore raté, veuillez réessayer lors de la prochaine Coupe du Monde. C'est le commentaire de Neymar, comme quoi il s'est aussi taclé.
Et puis alors, il y a un petit emballement autour du 16e de finale entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo ce soir.
L'ancien joueur de la République démocratique du Congo, Gabriel Zakouani, n'y va pas par quatre chemins. C'est l'événement le plus important de l'histoire du pays. Ça surpasse même le mythique combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman au Zaïre. C'est comme ça que le pays s'appelait à ce moment-là en 1974. D'accord, pourquoi pas, hein. La réponse des Anglais, c'est pas sur le match en lui-même. C'est Jude Bellingham qui est au service de Sa Majesté. Oui, parce que le milieu de terrain anglais se verrait bien incarner le prochain James Bond. Honnêtement, si les Anglais venaient à gagner la Coupe du Monde, je pense qu'il peut obtenir à peu près tout ce qu'il veut. La fine gâchette, c'est Harry Kane, mais le charisme de Jude Bellingham, ça peut le faire. Faudrait déjà commencer par gagner l'espoir,
ouais,
quand même.
Je vois bien Jude Bellingham, moi, en 0-0.
Moi, je le vois hyper bien, honnêtement. Hein, mais je suis pas très objectif. Hein, bon.
À 5h47, on va faire un tour à Mexico. Retrouver Edgar Grollo qui suit Mexique-Équateur pour RMC. Toujours 2-0, Edgar.
Ouais, après 85 minutes de jeu, et justement, vous en parliez, hein, de ce Angleterre-RDC, le vainqueur de ce Mexique-Équateur jouera le vainqueur du match Angleterre-République démocratique du Congo. Pour l'instant, c'est bien parti pour le Mexique, donc, qui a 2 buts d'avance, et il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
5h48, on vous retrouve un peu plus tard, Edgar Grollo. 5h48, très bon réveil à toutes et à tous avec RMC.
Et on joue ce matin, on joue au mot caché, ce petit mot qui sort de l'ordinaire que l'on n'a pas encore prononcé, mais on y arrive, bougez pas. Si vous l'identifiez, vous envoyez mot au 7-32-16 pour tenter de remporter vos vacances dans un camping Homer 4 ou 5 étoiles en France ou en Europe. Et il est 5h48.
Les Rolling Stones qui se rêvent sur grand écran. Le 25e album des Stones sort dans une dizaine de jours seulement et Mick Jagger prépare déjà la suite. On verrait bien l'histoire du groupe de rock adapté au cinéma après les succès, faut dire, de Queen, Elvis, Bob Dylan. Alors que Michael continue de battre des records en salle, le chanteur aimerait voir un réalisateur se saisir de la vie, d'une partie de la vie des papis du rock sur grand écran. Bon, si vous voulez voir les Stones jeunes, il y a un des derniers clips là pour la chanson que vous entendez, In the Stars, grâce à l'IA, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood retrouvent les traits de leurs 20 ans. C'est assez impressionnant pour le coup. Foreign Tongue, langue étrangère, sort le 10 juillet prochain, tout nouvel album des Stones. On y croisera un certain Paul McCartney, on y croisera un certain Robert Smith des Cure, ou même Charlie Watts, le batteur des Stones décédé, mais qui avait enregistré un titre avant sa mort, en attendant peut-être de faire revivre tous les Stones et leurs 60 ans de carrière au cinéma. h 49 sur RMC et RMC Story. Les trois grands titres à la une ce matin, Élise.
Et l'aventure continue pour les Bleus. La France qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial en battant la Suède 3-0. Encore une très grosse prestation des Bleus avant le Paraguay samedi. Ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Premier tour le 18 avril, second tour le 2 mai. Et puis c'est une information RMC. Dans le primaire, seuls 6 élèves sur 10 ont bénéficié de l'ensemble des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, pourtant obligatoire.
Il est 6h10.
RMC. À votre service.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Alain Souchon ce matin. Et si on pouvait mieux manger grâce à une application bénéfique pour la santé mais aussi pour la planète, quand on sait que notre alimentation représente 22% des émissions de gaz à effet de serre liées à notre consommation.
Et ce sont les objectifs du programme Mes meilleurs menus que vous avez cofondé, Geoffrey Zoll. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes physiologiste, maître de conférence à l'université de Strasbourg. Il y a une urgence réelle à changer notre alimentation selon vous?
Oui, bien sûr, il y a une urgence. Hein. C'est clair que on a fait un constat qui est très simple. Hein. Les gens ont la connaissance, ils savent qu'effectivement qu'il faut changer pas mal de choses. Mais la difficulté, c'est finalement de concrètement savoir quoi faire. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, du coup, on a eu cette idée et cette envie de créer cet outil, effectivement, Mes Meilleurs Menus.
Expliquez-nous comment ça marche concrètement, justement, comment cet outil peut aider, oui, à améliorer notre alimentation.
Alors comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Hein. Vous vous inscrivez en ligne et ensuite vous rentrez vos habitudes alimentaires, vos préférences, etc. Et ensuite, avec ce profil, l'algorithme vous façonne des menus qui sont adaptés pour vous, pour essayer de mettre en place des nouvelles habitudes alimentaires.
Mais des menus, donc, dans le respect, est-ce que vous pouvez nous donner un menu type, un exemple concret de ce que je peux manger ce soir qui va respecter la planète?
Alors, qu'est-ce que vous pouvez manger ce soir? Par exemple, du poisson grillé avec des légumes de saison, hein, que vous pourrez trouver assez facilement près de chez vous, dans une ferme ou dans un magasin bio, par exemple. Et vous pourrez y faire avec votre poisson grillé une ratatouille, peut-être des pommes de terre nouvelles. Et puis, vous finirez par un légume de saison, comme les cerises, par exemple, qu'on peut trouver assez facilement.
On va rappeler que Mes Meilleurs Menus, c'est gratuit, hein, c'est un travail associatif que vous faites.
Oui, absolument, ouais, on est une association, hein, avec des, effectivement, des passionnés, Jean-Noël, Cécile, Isabelle, et c'est complètement gratuit, absolument.
Geoffrey Zoll, tout ça, ça coûte plus cher, non? De bien manger, de mieux manger, de respecter la planète.
Non, pas forcément. Il faut aller vers des produits simples, bruts, et il faut éviter les hypermarchés, parce qu'effectivement, quand vous allez en hypermarché, vous allez acheter d'autres choses qui vont avec, des produits souvent hyper transformés. Alors que si vous allez simplement vers l'essentiel, alors vous aurez peut-être l'impression qu'à l'unité, ça coûte un peu plus cher, mais quand vous prendrez moins d'aliments qui sont pas forcément nécessaires, eh bien, au niveau du caddie, vous aurez pas une grosse différence.
Mais alors, Geoffrey Zoll, ce que vous dites, ce que j'allais vous demander, quels sont les pièges à éviter, vous parlez du sucre.
Absolument, ouais. Donc le sucre, il y en a trop, hein, il y en a partout. Et nous, en tant que scientifiques, on a fait des études, on est en train encore de faire des études, et là, on va publier une étude qui démontre que quand on augmente la consommation de sucre, eh bien, on augmente aussi le développement des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est des modèles précliniques, hein, bien sûr, mais n'empêche qu'on se rend bien compte que l'ennemi numéro un, c'est clairement le sucre, hein. Il vaut mieux aller vers le gras et surtout ne pas mélanger le sucre et le gras. C'est ça qui est le pire pour notre santé.
Le sucre, la viande, les produits transformés, faut un peu se priver, quoi, en soi.
Mais pas du tout. Non, il faut la viande, on peut en consommer, mais au contraire, faut peut-être effectivement diminuer un peu sa consommation, mais aller vers des produits de qualité pour effectivement continuer à se faire plaisir. Ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose de très important.
Ben merci beaucoup, Geoffrey Zoll. C'est pour le bien-être de tous et de la planète en passant. Vous êtes physiologiste et cofondateur, je le rappelle, du programme Mes Meilleurs Menus. Geoffrey Zoll, merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur RMC.
Il est 5h54 et tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
5-7, le Morning RMC.
Et à tout moment, en podcast, sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.
Tous les matins, l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Arthur, c'est demain qu'entre en vigueur le nouveau congé de naissance, un dispositif qui va permettre aux parents de prolonger leur présence auprès de leur nouveau-né.
Absolument. Alors actuellement, quelle est la situation ? Eh bien, pour la naissance d'un enfant, les mères ont 16 semaines minimum de congé maternité et les pères 28 jours, avec évidemment des variations en fonction du nombre d'enfants. Avec ce dispositif, les parents pourront donc allonger cette durée d'un ou deux mois. Le premier mois, l'indemnisation de la sécurité sociale sera de 70% du salaire net et le deuxième mois de 60%.
Alors aujourd'hui, ces congés, ils nous semblent évidents, mais c'est en fait assez récent, même le congé maternité. Hein.
Bah oui, alors pendant longtemps, évidemment, la question ne s'est pas posée du tout, puisque les bébés, on les confiait à des nourrices, mais c'était pas très égalitaire, puisque les nourrices, c'était surtout pour les riches. Les femmes, disons pauvres, devaient se débrouiller comme elles pouvaient. Et justement, il y a un homme que cette situation révoltait, c'était un député catholique de la fin du 19e siècle, qui a toujours défendu les prolétaires. Il s'appelait Albert Demain, et dans les années 1890, c'est le premier homme politique à proposer un congé maternité. C'était totalement révolutionnaire pour l'époque.
Quand est-ce que cette idée va se concrétiser ?
En 1909, la date est très précise, et cette fois-ci, c'est un député normand, toujours un député de droite, qui va porter le projet. Il s'appelait Fernand Enguerrand, et il va faire voter le tout premier congé maternité. Il était d'une durée de 8 semaines. Cette loi porte d'ailleurs son nom, c'est la loi Enguerrand. Alors dans un premier temps, ce congé n'était pas rémunéré, ça va le devenir petit à petit. Et la première profession à avoir eu droit à un congé mat intégralement payé, eh bien, ce sont les maîtresses d'école.
Pourquoi l'État a donné ce nouveau droit aux femmes ?
Alors qu'on soit clair, Apolline, si on a donné ce congé, c'était pas seulement par bienveillance, c'était surtout par pragmatisme.
Et rarement juste par bienveillance.
Exactement. À l'époque, la baisse de la population inquiétait déjà les politiques, donc on faisait tout pour maximiser les naissances. Et pour ça, il fallait à la fois limiter la mortalité infantile et la mort des femmes pendant l'accouchement, ce qui était assez fréquent à l'époque. Et donc, une des meilleures solutions, eh bien, c'était le congé maternité, puisque ça protégeait à la fois les femmes et les nourrissons. En 1946, ce congé passe à 14 semaines, en 1980, à 16 semaines.
Et les pères, alors, dans l'histoire ?
Alors, les pères, pendant longtemps, eh bien, ça n'a pas intéressé grand monde, ils n'avaient pas le moindre droit. Un père, c'était fait pour gagner de l'argent. Et c'est tout. Mais en 1946, tout change. Pour la toute première fois, les pères ont le droit à 3 jours de congé rémunéré. Alors, c'était un peu symbolique, mais ça devient très concret en 2002, puisque ça passe à 14 jours, et en 2021 à 28. Donc, cette nouvelle loi, eh bien, elle concerne aussi beaucoup les pères, puisqu'elle accroît le temps passé avec leur nouveau-né.
Merci beaucoup, Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin.
Il est 6h01 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, des Bleus flamboyants contre la Suède.
Ils affronteront le Paraguay en 8e après cette victoire 3-0 avec un homme qui a particulièrement brillé, Michael Olise. Nous serons en direct de New York. Une élection présidentielle pendant les vacances scolaires. Les dates sont tombées. Ce sera le 18 avril et le 2 mai. Et puis la voiture n'est plus tellement votre allié pour des vacances moins chères. Les prix ont explosé en 10 ans.
Les Bleus ont survolé la Suède.
C'était une véritable démonstration. Victoire 3-0, sans difficulté. Un doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola. La France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Ce sera samedi contre le Paraguay. Mais les supporters de cette fan zone à Paris voient encore plus loin Camille Borin.
On est en huitième.
Après avoir vu la démonstration française face aux Suédois, Sébastien est confiant pour la suite de la compétition.
On peut se dire que, au regard de ce qu'ils sont capables de faire depuis 4 matchs et dans les jours à venir, ils vont progresser, continuer à évoluer et puis vraiment à faire des matchs magiques.
Le prochain duel, ce sera face au Paraguay.
Une formalité, juste une formalité.
Les tombeurs de l'Allemagne en 16e de finale ne font pas du tout peur à Lucas.
Aucun stress pour nous, on n'est pas l'Allemagne, donc tout va bien se passer.
Et quand on demande à Samira ce qu'elle imagine pour les Bleus...
Une troisième étoile, évidemment. Ils sont là, ils sont combatifs, il y a tous les ingrédients. C'est la dernière sélection pour Didier Deschamps, on y croit. Ils vont lui faire le cadeau, ils vont nous faire ce cadeau.
Mbappé et ses coéquipiers ont 4 matchs à remporter pour réaliser le rêve des supporters français.
Jean-Louis Tour, la voix du foot sur RMC. On vous retrouve en direct de New York ce matin. C'est vous qui étiez au commentaire hier soir sur RMC. Jean-Louis, il y a donc eu cette grosse performance du capitaine des Bleus, mais il y a aussi et surtout eu un match exceptionnel de Michael Olise.
Ah oui, c'était l'homme du match hier soir. En tout cas, ça l'était pour les supporters que vous entendez derrière moi, debout pour l'applaudir au MetLife Stadium au moment de sa sortie à la 84e minute. Et avant cela, Olise a offert un récital, 2 passes décisives et ce qui aurait dû être le but du tournoi avec un retourné qui a fini sur le poteau. Didier Deschamps, le sélectionneur, était aux premières loges.
Michael enchaîne des prestations de très très haut niveau. Michael a ce caractère un peu introverti mais tellement sensible. L'important c'est qu'il soit pas introverti sur le terrain où il a beaucoup de personnalité. Après voilà, il y a un relationnel entre les joueurs offensifs.
Adversaire avec le PSG contre le Bayern et désormais partenaire, Bradley Barcola est aussi impressionné. Lui qui a bénéficié d'une passe décisive d'Olise.
C'est incroyable. Déjà, on l'avait déjà vu en Ligue des Champions quand on avait joué contre lui à plusieurs reprises. Et là, de jouer avec lui, c'est un vrai réel plaisir. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Chaque ballon qu'il touche, c'est dangereux. Donc, c'est parfait.
Seule anomalie avec ce niveau de jeu affiché, c'est qu'Olise n'a pas encore marqué sur cette Coupe du Monde. Il se réserve peut-être pour le Paraguay samedi.
Jean-Louis Tour en direct de New York. La Norvège, elle aussi, décroche son ticket pour les huitièmes en battant 2-1. La Côte d'Ivoire, Erling Haaland, buteur en fin de match. Et puis le Mexique se qualifie à l'instant. On l'a suivi il y a quelques minutes. Se qualifie en battant l'Équateur 2-0.
Vous réagissez au 32-16. C'est sûr que quand on est supporter des Bleus, on a un peu envie de gaber ce matin. On s'y voit déjà. Il y a encore le Paraguay à passer. On entend les supporters ravis du match. Ne nous privons pas.
Oui. Gabon
avec grand plaisir. Vous réagissez au 32-16, vous êtes supporter des Bleus, confiant pour la suite, vous nous le dites.
Allez, il est 6h05 sur RMC, sortez vos agendas puisque ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Premier tour, le 18 avril 2027, le second, le 2 mai 2027 et ça n'est pas tout à fait anodin. Cyprien Pezeril, service politique d'RMC, certains électeurs pourraient ne pas être chez eux.
Oui, le premier tour aura lieu en pleine vacances de printemps pour toutes les zones. Quant au second, il se déroulera alors que les académies de la zone B, Aix, Marseille, Nantes ou Amiens, seront encore en congé. Et cela pose donc forcément la question d'un impact sur la participation. Ce second tour aura lieu surtout au lendemain des manifestations syndicales du 1er mai, un moment très politique durant lesquels les chefs de la gauche ont pour coutume d'être dans les cortèges. Et ce n'est pas neutre, nous serons alors en période de réserve. Par ailleurs, le 1er mai, il y a aussi le risque de potentiel débordement. De telles images pourraient-elles avoir une influence en dernière minute sur le vote des Français. L'exécutif en tout cas a tranché après avoir longuement tergiversé, ce qui devrait soulager certains candidats impatients qui vont enfin pouvoir inscrire ces dates sur leur premier tract de campagne.
Déjà un nouvel épisode de chaleur qui se profile à partir de vendredi selon Météo France, et alors que la canicule qui vient de se terminer continue d'enflammer les débats, notamment à l'Assemblée hier, de ses propres mots, le Premier ministre est sorti de ses gonds alors que les écologistes ont avancé un bilan de 10 000 morts pendant cet épisode de chaleur. Bilan scandaleux selon lui. Le groupe écologiste annonce sa volonté de déposer une motion de censure contre le gouvernement.
Les mineurs accusés de crimes vont-ils pouvoir être maintenus en détention?
C'est la question qui se pose ce matin à cause d'un vide juridique. Une disposition de 2019 du code de la justice pénale des mineurs a été censurée l'an dernier. Maxime Cliérusa, service police-justice d'RMC, cela suscite beaucoup d'inquiétudes chez les magistrats.
Oui, le ministère de la Justice avait pourtant un an pour se mettre en conformité, mais aucun texte n'a été inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale. Conséquence, entre l'ordonnance de mise en accusation qui clôture l'enquête et le début de son procès, un mineur de plus de 16 ans accusé de crime ne pourra pas être maintenu en détention. Un vide juridique qui inquiète Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats.
Il s'agit en principe des mineurs les plus dangereux, impliqués dans des assassinats, dans le crime organisé, des mineurs qui auraient commis des viols particulièrement graves.
Le ministère de la Justice explique que la situation ne concerne que les nouveaux dossiers, que cela devrait être réglé d'ici la fin du mois par un amendement déposé dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle, un texte actuellement en examen à l'Assemblée nationale et que le garde des Sceaux espère voir voter à la mi-juillet.
L'allocation chômage n'est pas revalorisée aujourd'hui comme c'est le cas pourtant depuis 10 ans. Les organisations patronales estiment que l'état des finances publiques ne permet pas de la revaloriser à hauteur de l'inflation. L'an dernier, elle avait augmenté de 0,5%. C'était jusqu'ici une solution accessible, mais partir en vacances en voiture est-il devenu un luxe? En 10 ans, le coût pour un aller-retour Paris-Nice a grimpé de 40% selon une étude du club automobile Roul, à cause du prix du carburant et des péages américains.
Oui, difficile à croire, mais il fut un temps, en 2016, où le diesel était à 1,13€ le litre, 1,30€ pour l'essence. Des prix qui n'ont cessé de progresser ces dernières années, dépassant largement l'inflation, jusqu'à atteindre un pic historique au printemps dernier, au-dessus des 2€ le litre. Résultat, pour un Paris-Nice, il faut compter en carburant 40€ de plus qu'il y a 10 ans. À cela s'ajoute le prix des péages, qui eux sont passés de 76 à 91€ sur ce même trajet. La tendance est la même, hein, si vous optez pour d'autres destinations. La Bretagne, par exemple, quand on additionne carburant et péage, le trajet Paris-Brest a augmenté de 32€ depuis 2016. Alors, pour freiner ces dépenses, l'étude conseille de comparer les prix des stations essence avant de prendre la route, ou bien de décaler son départ pour éviter les embouteillages.
De moins en moins intéressant de circuler en voiture pour les vacances. Alors après, vous me direz que c'est toujours moins cher que le train, mais une hausse de 40% des frais en 10 ans, ça a augmenté deux fois plus vite que l'inflation. On en parle avec vous à présent au 32-16 si vous le souhaitez, et à 6h40 tout à l'heure avec Alette Dassigny, directrice Impact du club automobile Roule, qui réalise cette étude.
Et puis à Wimbledon en tennis, les retrouvailles n'ont pas été celles qu'elle espérait à 44 ans. Serena Williams éliminée dès le premier tour, battue en 3-7 par l'Australienne Maya Joint pour son premier match en simple depuis 4 ans. L'Américaine attendue demain en double avec sa sœur Vénus.
Merci Clara, c'était le journal de 6h et dans un instant, c'est l'heure du choix de la rédaction. On retrouve Bérangère Bocquillon, bonjour.
Bonjour.
Bérangère, les programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle sont appliqués depuis septembre, de la maternelle au lycée. Et vous nous dites ce matin que le nombre d'élèves à en avoir bénéficié est décevant.
Oui, ces cours dans lesquels on apprend aux enfants que leur corps leur appartient, par exemple, eh bien, 6 élèves de primaire sur 10 seulement ont suivi les 3 séances qui sont pourtant obligatoires.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h13 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Ils ont fait couler beaucoup d'encre, les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les élèves de la maternelle à la terminale. Ils sont mis en place depuis septembre dernier à raison de 3 séances obligatoires par an.
Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour.
Vous êtes chef du service société d'RMC. Vous nous révélez, c'est une information RMC ce matin, que seuls 6 enfants sur 10 en primaire, 6 enfants sur 10 ont suivi les 3 séances obligatoires selon le ministère de l'Éducation. Des séances qui sont pourtant, rappelons-le, essentiel à la protection de l'enfance.
Oui, c'est comme si je vous disais que seulement 6 élèves de primaire sur 10 ont suivi tout le programme de maths ou tout le programme d'histoire. Car depuis cette année, l'éducation à la vie affective est un programme scolaire au même titre que les autres. Alors qu'est-ce qu'on y apprend? En primaire, par exemple, les enseignants expliquent aux enfants que leur corps leur appartient, la notion d'intimité, de consentement, l'égalité entre les filles et les garçons. Ce qui fait que ces programmes protègent les enfants et entraînent même une libération de la parole. Écoutez bien ce témoignage d'une directrice d'école en Île-de-France qui a mis en place des séances d'éducation à la vie affective du CP au CM2, ce qui a provoqué plusieurs confidences d'enfants.
Quatre enfants ont parlé, en fait, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Ils en ont parlé à leur enseignant. Qui m'en a parlé? Un enfant a été forcé à assister à une situation de fellation. Après, moi, je n'auditionne pas les enfants. Hein. Je lance des informations préoccupantes. C'est factuel. Hein. On ouvre les guillemets et on cite.
On l'entend, hein, Bérangère, ces cours d'éducation à la vie affective, c'est de la protection de l'enfance.
En fait. Oui, à l'école primaire, comme au collège et au lycée, où il y a d'autres enjeux, hein, comme par exemple lutter contre les mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Audrey Chanona est responsable des questions d'éducation sexuelle pour le syndicat de directeurs d'établissement SNPDEN, mais aussi principale de collège à Cognac.
J'ai traité, par exemple, cette année, deux affaires avec 3 mois d'écart d'un élève de 3e qui a eu des relations sexuelles avec une jeune fille pour pouvoir, en fait, imiter ce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a abouti à 2 affaires de viol. Parce qu'en fait, pour lui, c'était complètement normal de pas accepter le consentement. Tant pis si la jeune fille disait non, parce que de toute façon, à la fin, elle allait dire oui. Et ça s'est terminé par 2 signalements au procureur.
Mais alors quand on entend ces témoignages, on comprend l'utilité de ces cours. Et on s'étonne, Bérangère, qu'il n'y ait pas plus de 6 élèves sur 10 en primaire qui aient suivi les 3 séances obligatoires.
Alors la raison principale, c'est qu'il n'y a pas assez de formation. Et tous les enseignants ne sont pas à l'aise avec ces questions. Hein. Les parents le savent, ce n'est pas toujours simple d'aborder ces sujets. Et pour Audrey Chanona, quel que soit le niveau, le compte n'y est pas du tout.
Les classes qui ont eu les 3 séances annuelles sont en réalité extrêmement rares. Que ce soit en primaire, en collège ou en lycée, on est très loin du compte. Et très vite, certaines académies se sont retrouvées débordées par le fait qu'elles n'avaient pas accès de formateurs, ce qui fait que sur le terrain, les enseignants n'ont pas été formés comme ils l'auraient véritablement dû.
Un autre frein, Bérangère, peut-être au déploiement de ces programmes, c'est l'opposition de certains parents.
Oui, mais là, surprise, hein, alors que le syndicat de la famille, l'ex-manif pour tous, ou les parents vigilants, qui sont proches d'Éric Zemmour, étaient critiques de ces programmes. Il y a finalement très peu de parents qui se sont plaints des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est ce que me rapportent plusieurs directeurs d'établissement.
Pour toute école, il y a un parent qui a dit que son enfant ne viendrait pas à l'école si on parlait de ça.
On a expliqué en début d'année en réunion de rentrée au niveau des parents qu'on allait dispenser ce type d'enseignement et on n'a pas eu de réaction plus que ça. Je pense que les parents nous font vraiment confiance ici et puis je pense que la société évolue. Je pense que c'est une protection pour les enfants et que ça, les parents maintenant le comprennent bien.
Des directeurs qui estiment que ces séances doivent être une priorité. Pour rappel, 3 enfants par classe sont victimes d'inceste.
Et Nadja est en ligne avec nous à Nîmes dans le Gard. Bonjour Nadja.
Bonjour à tous.
Soyez la bienvenue sur RMC ce matin. Vous avez 2 enfants à l'école primaire.
Oui, c'est ça. J'ai 2 enfants en primaire et c'est vrai que chaque année, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions chez les parents. Je pense que c'est un sujet important, mais aussi un sujet sensible. Avec tout ce qu'on entend dans les médias ou sur les réseaux sociaux, certains parents peuvent être inquiets ou avoir du mal à comprendre exactement ce qu'ils enseignaient.
Parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation aussi autour de ce sujet. Nadja, vos 2 enfants, ils ont eu les cours en question ou pas, hein? Les 3 cours? Alors, obligatoires?
Pour tout vous dire, j'ai pas eu de retour en ce sens.
Okay.
Après, c'est vrai que je communique beaucoup avec mes enfants. On se raconte un petit peu ce qu'ils ont fait à l'école. Ils m'en ont pas parlé. Et puis, perso, j'ai confiance en l'équipe pédagogique. Donc, je sais que même s'ils l'ont mis en place, les choses ont été faites correctement, je pense.
Si vous en ont pas parlé, c'est peut-être parce que ça s'est très bien passé et que ça a pas soulevé davantage de questions ou d'inquiétudes chez eux. C'est plutôt un bon signe.
Il y a
des établissements où on informe les parents quand il y a une séance d'éducation à la vie affective et puis d'autres où on ne le fait pas.
On informe.
Oui, après d'informer, je vois le message d'Ali hein, qui nous écrit tous les matins et qui nous dit « Moi, j'ai choisi de ne pas mettre mes enfants de 8 et 9 ans le jour où il y avait ce cours-là ».
C'est la crainte, en effet, des écoles qui ne préviennent pas. Mais ça permet aussi.
Ali qui expliquait dans son message aussi, à cet âge-là, la sexualité. Mais c'est pas ça. Enfin, on a raconté n'importe quoi
primaire,
sur cette affaire.
On parle pas de sexualité en primaire.
Sexualité.
C'est à partir du collège.
Voilà. Après, je peux comprendre que ça peut être un sujet sensible et tabou dans certains foyers. Mais il faut beaucoup de dialogue, de pédagogie et de transparence pour rassurer les parents.
Merci beaucoup Nadia, merci de votre appel. On est au cœur des débats. Vous êtes directeur d'établissement, enseignant vous-même. Vous êtes parent d'élèves, vous témoignez ce matin. Vous réagissez au 32-16. Rappelons-le, on a eu quand même pas mal d'affaires de pédocriminalité ces derniers jours qui ont ému la France. 3 enfants par classe sont victimes d'inceste. Et j'ai souvenir de quand ça a été lancé. Là, on fait le bilan. J'ai souvenir de quand ça a été lancé d'un témoignage d'auditeur qui avait participé à un jury d'assises où une affaire avait été révélée précisément grâce à ces cours-là aussi. Merci Nadia. Il est 6h19 sur RMC.
Et ça, c'est la chanson avec laquelle s'ouvre et se conclut le film Voicemails for Isabelle, si tu m'écoutes en français.
Elle a eu des devoirs hier, Elise.
Une production Netflix qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux pour son prétendu pouvoir à nous émouvoir, à nous faire pleurer en 15 minutes chrono. Et alors, moi, j'adore les défis et puis j'adore aussi pleurer parce que je suis poisson, c'est le signe astrologique des fragiles. Du coup, j'ai regardé le début du film jusqu'à la 15e minute, donc, où l'héroïne perd sa sœur et je ne divulgâche rien. C'est dans le synopsis. D'essai accompagné pourtant de la très efficace et larmoyante chanson de The Cinematic Orchestra. Et je suis au regret de vous annoncer que pas une seule larme n'a coulé sur mes joues. Rien du tout.
Pendant le film. Hein. Parce qu'après le doublé d'Mbappé, t'étais...
Ah bah, Michael Olysée, là j'ai bien pleuré. Alors plot twist, comme disent nos experts ciné préférés, moi qui devais me contenter des 15 premières minutes du film, et ben en fait je suis restée accrochée tout du long, jusqu'à la fin, jusqu'au match des Bleus, donc 23h, c'est ça le retournement de situation. J'ai pas pleuré, mais j'ai adoré cette comédie romantique et sa bande-son. Alors en fait, là où on nous promet des larmes, vous aurez des rires, c'est hyper drôle, c'est cynique, c'est inspiré d'ailleurs d'une histoire vraie, celle d'une jeune femme qui continue de laisser des messages vocaux à sa défunte sœur jusqu'au moment où le numéro est réattribué à un homme qui va tomber amoureux d'elle, hein. Le tout sur une playlist qui va ravir les fans de Taylor Swift. Il y a tous les codes de la comédie romantique, la course sous la pluie, la fin qu'on a vu venir à 10 bornes, mais franchement c'est très réussi et d'ailleurs le film est dans le top 10 du classement mondial de Netflix et c'est pas pour rien.
Toujours pas pleuré depuis ?
Non, toujours pas, non mais
j'ai... un truc dans l'œil là.
Rien du tout.
Cœur de pierre. 6h21, vous êtes sur RMC et RMC Story, un excellent réveil à toutes et à tous. Les grands titres à la une ce matin.
Et nos bleus qui nous ont presque émus hier soir, ils rejoignent le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde après leur victoire 3-0 face à la Suède. Prochain match samedi donc. Ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Premier tour le 18 avril, second tour le 2 mai. Et puis le Premier ministre face à une motion de censure déposée par les écolos qui estiment qu'il aura, je cite, des morts sur la conscience après les canicules qui ont frappé le pays.
Il est 6h22 et le docteur du morning est là, Aurel Guedj, bonjour.
Bonjour.
La consultation gratuite dans un instant.
Vous aimez les sorties en forêt, mais comment se débarrasser des tiques?
Ça c'est utile, tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h25 sur RMC et RMC Story.
RMC, consultation gratuite.
Et c'est l'été, et pendant ces mois d'été, eh bien, c'est le pic d'activité des tiques. Chaque année, entre 30 000 et 60 000 Français contractent la maladie de Lyme. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement, Aurel Guedj, et surtout, comment on s'en protège?
La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est liée à une bactérie, et cette bactérie, elle est souvent portée par les tiques, et les tiques vont pouvoir vous la transmettre. Cette maladie, elle va se manifester généralement par une atteinte cutanée, une atteinte articulaire, une atteinte neurologique. Et on a pu voir de nombreux témoignages dans différents médias de patients justement où c'est extrêmement handicapant. D'ailleurs, cette maladie, il faut bien comprendre que elle se traite assez simplement. Elle peut se traiter par antibiotiques. Sauf que très souvent, l'histoire, c'est une tique qui est restée longtemps, une tique qui a été infectée. Cette tique vous a transmis, eh bien, cette bactérie qu'elle portait. Et malheureusement, vous avez été infecté. Généralement, il faut comprendre que les tiques peuvent ne pas être porteuses, mais ça va dépendre aussi des régions. Par exemple, vous avez entre 15 et 20% des tiques qui sont infectées par la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme dans l'Est, alors que dans certaines autres régions en France, vous êtes à moins de 5%. Donc ça va être vraiment variable en fonction des régions pour évaluer le risque.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on découvre une tique sur sa peau?
Bon, déjà, première chose, on panique pas. Il faut savoir que le risque, lorsque vous avez... C'est pas facile, voir une espèce d'insecte qui est fixé dans la peau. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va l'enlever. Pour ça, il va falloir utiliser un tire-tique. Alors attention, ne le faites pas avec vos doigts, parce que si vous allez faire quand vous allez prendre avec vos doigts la tique...
Oh,
Non, on va éclater parce que c'est du sang en fait.
Alors en fait, c'est exactement comme si c'était une bille de sang. Donc en appuyant dessus, on va renvoyer en fait, bah elle va régurgiter en fait dans le patient. Hein. Faut bien comprendre que comment ça se fixe une tique, ça mord et ça met sa tête. Donc en fait, quand vous appuyez sur son ventre, bah ça va recracher le sang et ça va recracher sa salive. Donc vous avez une chance d'augmenter encore plus l'inoculum. Ce qu'il faut en fait, c'est tout simplement
augmenter plus. Pardon, il y en a pas la VO.
De continuer à parler en latin à l'antenne.
D'augmenter la quantité que vous allez envoyer de produits. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faut surtout pas tirer, faut un tire-tique où l'idée en fait ça va être de tourner et d'enlever
la tique. Un tire-bouchon.
Exactement, parce qu'en fait la tique, eh bien elle se fixe avec ses crocs et donc l'idée c'est de lui faire lâcher prise parce que sinon
la dévisse.
C'était une magnifique imitation de tique que vous avez fait.
Oui, désolé, c'était silencieux pour ceux qui nous écoutent en radio, mais je fais très bien la tique.
Mais est-ce que ça veut dire que du coup on va devoir se traiter, comme on sait pas si elle est contaminée à la maladie de Lyme ou pas, ça veut dire qu'il va falloir se traiter à des antibiotiques et tout à chaque morceau de tique?
Alors non, si c'est fait dans les 24 premières heures de toute façon, non, il n'y a pas de risque. Par contre, si vous êtes piqué par une tique et que vous ne savez pas trop quand est-ce qu'elle vous a piqué, il faut regarder pendant le mois qui suit s'il y a une tache rouge qui apparaît et qui se répand. Et dans ce cas-là, il faut aller voir votre médecin traitant qui vous mettra sous antibiotique.
Merci Aurèle. On pense à inspecter nos corps, les jambes des enfants, quand on s'est assis dans l'herbe, etc. En rentrant de promenade, on jette un coup d'œil, on passe la main et on vérifie qu'on n'est pas mordu par une tique en l'occurrence. 6h28, merci beaucoup Aurèle.
Et c'est l'heure de jouer avec Jean-Philippe qui nous appelle depuis la Loire. Salut Jean-Philippe.
Oui, bonjour.
Comment ça va ce matin?
Ça va bien, et vous?
Bah, ça ira mieux si vous me donnez le bon mot caché du jour.
Alors je crois que c'est gabé.
Mais oui, c'était bien gabé, plaisanté, fanfaronné. Vous l'avez entendu, il a été peu prononcé, mais Jean-Philippe était vigilant. Et ça vous permet de repartir avec vos vacances finalement. Votre séjour dans l'un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles situés en France, en Europe, pour voyager entre 2 nuits et 1 semaine. Et jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Vous allez bien en profiter, Jean-Philippe, grâce à RMC.
Eh ben, je vous remercie beaucoup, ça va faire très plaisir à la famille.
Bonne journée, pour toute la famille.
Et on embrasse toute la famille de Jean-Philippe dans la Loire.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, le bilan des canicules.
Au moins 300 morts en mai, plus d'un millier déjà. En juin, premier bilan donc ce matin, une octogénaire, vous allez voir, est morte de chaud à l'hôpital. C'était la semaine dernière, témoignage RMC dans un instant. Vous allez entendre dans ce journal la sortie d'Emmanuel Macron contre la peine de mort et la joie aussi des Bleus, qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial cette nuit en battant la Suède, largement 3-0.
Les canicules à répétition mettent à mal notre système de santé. On en a la confirmation ce matin avec ce témoignage RMC.
Oui, la journée de solidarité, chacun s'en souvient, a été créée après la canicule de 2003. Elle rapporte autour de 3 milliards d'euros par an pour financer la prise en charge des personnes âgées notamment. On est donc 23 ans plus tard et le gouvernement a commandé en urgence des milliers de climatiseurs pour faire face au retour de la chaleur la semaine prochaine dans les hôpitaux où donc on meurt de chaud, littéralement. C'est ce qui est arrivé à une octogénaire la semaine dernière dans le Nord. Une triste fin de vie que nous raconte Marion Gauthier pour RMC.
Entrée pour une sciatique, sous morphine, Monique dépérit sur son lit dans la pénombre et l'air chaud d'un seul ventilateur, décrit son auxiliaire de vie.
Il fait extrêmement chaud, vraiment. Même moi, c'est suffocant.
Un climatiseur est acheté par la famille avant une dernière visite.
J'ai mis climatiseur en route et là, il y avait écrit 39. Je me dis que c'est complètement dingue. Je passe des glaçons dans son dos pour la rafraîchir au maximum. Je dis, et là, t'as à boire, il faut que tu te reposes, tu reprends des forces et demain matin, j'arrive. Et il n'y aura jamais de demain matin.
La culpabilité de celle qui avait fini par appeler Monique mamie.
Moi, je suis dévastée. Pardon.
Et la colère de sa fille.
En fait, on est sonné en 36 heures. Ma mère est morte en 36 heures pour une sciatique. Oui, elle avait des pathologies. Mais quand elle est arrivée à l'hôpital, il n'y avait rien. C'est la chaleur qui l'a fait décompenser, en fait.
Catherine revient sur l'annonce du décès à 4 heures du matin. Sans explication, dit-elle, elle raconte cet appel de la chambre mortuaire qui déborde et ne peut accueillir un corps de plus.
Ça paraît irréel. Quand on dit il va y avoir 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, c'est pas des petits bâtons qu'on fait sur un mur. Ce sont des familles qui sont dévastées.
Contacter l'hôpital n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Alors Santé publique France donnait une première estimation d'au moins 300 morts de plus que la normale pour la première canicule, celle du mois de mai, dans les 17 départements concernés. Et hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu est sorti de ses gonds, littéralement dans une joute verbale avec les écologistes qui avancent le chiffre le risque, disent-ils, de 10 000 morts pour la canicule de juin et qu'il dépose une motion de censure contre le gouvernement.
Est-ce qu'on en est à chercher des responsabilités politiques? Cette passe d'armes entre les écolos et le Premier ministre, en colère hier à l'Assemblée, ça vous fait réagir? Vous continuez au 3216 et sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424.
La politique ce matin, c'est aussi le calendrier de la prochaine élection présidentielle. Les dates sont tombées, ça y est, le premier tour aura lieu le 18 avril pendant les vacances scolaires et le second le 2 mai au lendemain donc de la fête du travail. En attendant, il faut que vous écoutiez cette sortie d'Emmanuel Macron sur la peine de mort. Après plusieurs faits divers qui ont bouleversé les Français, le président a pris la parole sur le sujet, c'était hier à l'occasion du congrès mondial contre la peine de mort qui se déroule à Paris.
Et l'espérance d'une abolition universelle constitue un horizon accessible. Toutefois, les risques demeurent dans beaucoup de pays, et quand je vois les débats dans nos pays, je considère que rien n'est acquis. Ne pensez pas que vous êtes les combattants d'une cause qui vaut pour tel ou tel pays qui n'a pas encore aboli. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ce débat revient. Beaucoup se remettent à penser que la peine de mort serait une réponse. Alors ne croyez pas une seule seconde que le combat qui est le vôtre ne vaut pas aussi pour ici et pour aujourd'hui.
C'est une enquête particulièrement complexe qui ne fait que commencer, prévient déjà le parquet de Paris, 3 jours après le dramatique accident d'avion de tourisme qui a fait, vous le savez, 11 morts près de Nancy. On n'a toujours aucune piste qui est à avancer pour expliquer cet accident. On sait juste que l'enquête sera longue, Lucas Laubert.
Oui, au moins plusieurs mois d'investigation et un travail extrêmement minutieux fait d'expertise et de contre-expertise pour faire parler l'avion et comprendre sa chute encore inexpliquée peu de temps après son décollage dimanche. À ce stade, on sait que l'appareil avait déjà volé la veille et le matin même, il en était à sa 3e rotation dimanche. Il avait effectué les 2 vols précédents sans problème apparent. Il convient donc d'identifier de possibles défaillances techniques, voire des responsabilités humaines. En parallèle, une enquête de sécurité a démarré, elle a été confiée au BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile. Enquête qui doit aussi déterminer la cause du crash afin d'améliorer les procédures et faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise pas.
Il est 6h35 sur RMC et les Bleus ont impressionné le monde entier cette nuit.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Impressionné le monde entier en se qualifiant pour les 8e de finale avec une victoire 3-0 contre la Suède cette nuit donc à New York. Kylian Mbappé a encore mis un doublé. Bradley Barcola lui aussi a marqué. Michael Olise a failli mettre un ciseau absolument incroyable. C'était impressionnant, Florent Germain.
Oui, les Bleus ont écœuré la Suède et fait forte impression. 3-0, des Suédois dépassés, des buts et des gestes de grande classe. Le sélectionneur Didier Deschamps savoure, mais doit quand même calmer le jeu.
Oh là, non, il y a toujours forcément des problèmes, même quand il y en a, moi j'en ai pas. Il y a des choses à améliorer, toujours. Non, allez-y, trouvez des problèmes, c'est bien, il faut pas que ça soit tout beau, tout rose. On va pas tomber dans l'euphorie non plus, on est en 8e, il faut apprécier.
La démonstration de technique et de puissance des Bleus ne va pas calmer l'euphorie des supporters français.
Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant et on a certains joueurs qui ils font des fulgurances phénoménales.
On va forcément aller loin dans la compétition. On peut parler des triplés de Messi, etc. Mais je trouve qu'on est vraiment favoris.
Nous, on veut la finale. On veut se retrouver ici, en fait, le 19. Allez les Bleus!
Pourtant, le capitaine Kylian Mbappé envoie un message. La France est en mission et ne va pas se laisser flatter par tant d'éloges.
Je pense que l'équipe est parfaitement consciente de ce qu'on doit faire ici. C'est l'idée de ce groupe, c'est l'ADN de ce groupe. On est tous ensemble.
En tout cas, le sélectionneur de la Suède l'a reconnu. La France est la meilleure équipe qu'il a vue depuis le début de la Coupe du Monde.
8e de finale donc. Samedi, 23h contre le Paraguay, ça se jouera à Philadelphie. Je vous donne le résultat de là, la nuit, c'est la qualification du Mexique 2-0 contre l'Équateur, ça se déroulait à Mexico. Et alors, l'autre information foot de la journée, c'est la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, exclus des compétitions nationales, on l'a appris hier par le gendarme financier du foot français, hein, Clément Brossard.
Oui, les Girondins de Bordeaux, engagés dans un processus de vente, devaient apporter devant la DNCG la somme de 9 millions d'euros. Ils n'ont pas été capables de le faire. Conséquence, Bordeaux devra repartir en Régional 1 la saison prochaine, soit la 6e division du football français. Une fois le verdict tombé, le club a immédiatement fait appel, lui permettant d'obtenir un délai afin de réunir la somme. En Gironde, on se dit confiant, 6 millions d'euros devraient être apportés par le fonds d'investissement britannique Sparta, futur propriétaire du club. Les 3 restants sortiraient, eux, de la poche de l'actuel patron Gérard Lopez. Une opération qui devra se faire avant le 10 juillet sous peine d'être définitivement barré des compétitions nationales la saison prochaine.
Le Quintet, Quentin, c'est à Enghien.
Oui, 18h30, le 7, le 11, les pronos de la Dream Team, le 7 en favori, le Graal, le 11 en outsider, l'Ariano.
Merci beaucoup Quentin Vinet, il est 6h37, alors pour tout vous dire, hier on a donné des devoirs à Élise Dangean. Il y avait un article sur un film sur Netflix qui apparemment vous garantit de pleurer dès la 15e minute. Ah. Alors Élise a regardé le film hier soir.
Oui, avant le match des Bleus.
Elle n'a pas pleuré.
Eh ben non.
Cœur de pierre.
Jusqu'à la 15e, j'ai pas pleuré et j'ai même fini le film tellement j'ai adoré. Ça s'appelle Si tu m'écoutes.
Et pourtant, t'avais un argument. Hein. T'as dit je suis poisson, oui. C'est le signe des fragiles.
Voilà.
Jonathan est en ligne avec nous. Je te laisse, Jonathan.
Alors, on a Jonathan, oui. Jonathan, il est bélier. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour, l'équipe.
Et vous avez pleuré devant ce film, Jonathan?
Ah oui, mais moi, de toute façon, devant ce genre de film, j'ai toujours la larme qui coule. Je suis très, très sensible. Et c'est vrai que bah, il n'y a pas besoin d'être poisson pour verser sa petite larme devant ce genre de film.
Non, mais c'est vrai que je connais bien les béliers aussi et vous êtes plutôt sensible.
C'est pas possible.
Bon, je m'arrête là parce qu'ils sont tous en train de se moquer de moi. Vous avez pleuré à quelle minute? À la 15e minute ou avant, après?
Ah bah au moment du décès de la sœur, bien évidemment. Et puis bon bah après, comme je suis quelqu'un d'assez sensible qui aime bien ce genre de film, qui en regarde assez souvent, bah du coup il y a certains moments bien sûr qui font verser les petites larmes.
On va pas divulgâcher, mais le décès de la sœur c'était dans le synopsis, donc tout va bien.
Ouais, alors moi voilà, je me dis mais comment elle sait qu'elle est bélier? Mais c'est sur l'affiche. On arrête là, Jonathan, merci de votre appel. Vous ferez des soirées ciné avec Élise.
Ouais. Merci,
merci, bonne journée.
À bientôt.
Il est 6h39. Très bon réveil à toutes et à tous. Partir en vacances en voiture coûte 40% plus cher qu'il y a 10 ans. Mauvaise nouvelle.
Ça fait pleurer.
À l'approche des vacances. Ah oui, ça me. Ah oui. Ouais, d'abord rager. Et ouais. Après pleurer. C'est ce que nous apprend Roul, le premier club automobile de France, club que vous représentez à l'aide d'Assigny. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, qui sont les plus concernés? Quelles sont les conséquences sur les vacances? Et surtout, comment limiter les coûts? Vous allez nous répondre dans quelques minutes.
Et puis, elle est là, la bande du morning. Virginie Fulpin, à ma gauche, pour la causerie.
On a passé des années à chercher le nouveau Zidane. Je crois qu'on l'a trouvé.
Et Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Est-ce que vous avez remarqué que les prix des appareils électroniques étaient en train de flamber là depuis quelques mois? Ah oui, mais c'est en train d'exploser. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Je vais vous expliquer pourquoi.
À tout de suite sur RMC, RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h43 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
Et plus de 6 Français sur 10 prendront leur voiture pour partir en vacances cet été. Et si c'est votre cas, mauvaise nouvelle, l'addition risque d'être encore plus salée. Et pour cause, ça vous coûtera 40% plus cher qu'il y a 10 ans.
C'est ce qu'on apprend dans une étude qui est publiée par Roul, le premier club automobile en France. Bonjour Alette Dessigny.
Bonjour.
Vous êtes justement directrice impact chez Roul. Alors cette augmentation, on la doit, faut le dire clairement, principalement à la hausse des prix des carburants et des péages.
Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on peut voir. Alors le prix des carburants a énormément augmenté. Le prix des péages, lui, est indexé sur l'inflation. Donc c'est pas forcément ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 20% d'inflation sur les 10 dernières années. Donc effectivement, ça a créé une grosse augmentation. Et aujourd'hui, si on fait des calculs sur un Paris-Nice, par exemple, on arrive quasiment à 200€ l'aller. Donc 400€ aller-retour.
Oui, contre 276 il y a 10 ans, si je reprends vos chiffres.
Hein. Exactement.
Ce sont vos chiffres. Cela dit, vous dites qu'il y a une inflation de 20%. Là, on parle de 40% de hausse. On va deux fois plus vite que l'inflation.
Alors, on les a eu deux fois plus vite, oui, surtout sur les carburants, notamment sur le diesel, où en fait, on est à une hausse de 67%, donc ce qui est quand même conséquent, un peu moins sur l'essence, 45%, mais c'est conséquent, effectivement. Donc pour ça, derrière, qu'est-ce que ça nous dit et comment on peut s'en sortir pour faire réduire le prix des trajets? Ben, il faut préparer son trajet, évidemment. Il faut rouler moins vite. Ça, on sait aussi que c'est une façon de réduire la consommation. Et puis, il faut peut-être éviter les péages, si vous pouvez, parce que si vous avez le temps, vous pouvez évidemment vous gagner le prix des péages.
Qui souffre le plus de cette hausse?
Alors
tout le monde en fait.
Tout le monde, parce qu'en fait aujourd'hui, alors comme vous le disiez, de plus en plus les Français cette année vont partir beaucoup en France. Donc, alors aussi pour des raisons de coûts et pour des raisons d'instabilité géopolitique. Donc, en France, on prend souvent sa voiture, puisque effectivement, quand on est une famille, ça coûte moins cher de partir en voiture que de partir en train, surtout pendant les grands départs.
Pardon, c'est important. Malgré ces 40% de hausse, ça reste le moyen le moins cher.
Alors le moins cher, c'est,
non,
ça dépend.
À Paris-Nice, c'est moins cher en avion.
Oui, enfin, toute seule. Si t'es 4,
voilà, ça dépend. Oui, il y a pas de, on peut pas faire une généralité. En fait, il faut regarder en fonction de la situation. Si vous êtes tout seul, effectivement, ça vous coûtera certainement moins cher en train. Et évidemment, il y aura pas d'émissions de CO2. Donc, c'est quand même, il y a quand même des avantages. En revanche, si vous êtes une famille et que vous devez partir, il faut pouvoir payer un aller-retour Paris-Nice. Donc, la voiture reste quand même un peu moins chère. Surtout en faisant des petits ajustements, comme préparer son départ, ou aujourd'hui il y a des applications de navigation qui vous permettent de dire bah tiens là le carburant est moins cher. Autour de vous, vous trouverez un carburant moins cher.
Il faut ruser, quoi. Il faut mieux préparer.
Il vaut mieux préparer.
Justement, il y a Benoît qui a composé le 32-16 ce matin depuis la Manche. Ce sujet vous a fait réagir, Benoît. Et vous avez des astuces, je crois.
Oui, bonjour, comment ça va?
Très bien. Et vous partez où en vacances cet été?
En Saône-et-Loire.
Ok, et vous prenez la voiture?
Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. De campagne à campagne, on n'a pas trop le choix, quoi. Surtout en diagonale sur la France, parce que sinon, il faudrait repasser par Paris, changement à Paris, et puis j'ai besoin de la voiture sur mon lieu de vacances.
Oui, donc pour vous, la question est réglée. Alors, est-ce que, Benoît, d'abord, est-ce que vous mesurez cette hausse au fil des années? Alors, elle sera peut-être pas de 40%, parce que ça dépend des départements, des autoroutes, etc. Mais est-ce que vous mesurez sur cette hausse, et comment est-ce que vous la limitez, surtout?
Bah en fait moi déjà vu que je descends en diagonale par la France, je mixe autoroute et nationale pour descendre en diagonale plutôt que de descendre en escalier. Parce que en France si on passe pas par Paris c'est le bordel. Et j'ai converti ma voiture à l'éthanol. Du coup je paye le litre à 80 centimes. Donc la hausse.
Il y a presque un sourire dans votre voix quand vous le dites.
Ah ouais bah oui. Oui, c'est sûr. Ça fait, l'autre jour, j'étais en train de faire le plein, il y a un mec qui vient me voir, il me fait « Mais vous mettez quoi dans votre voiture pour ce prix-là ?» Je fais « De l'éthanol ?» Il fait « Ah ouais, quand même, ça vaut le coup, ouais. »
En ce moment, donc, oui, c'est sûr. Bon, après, même si ça a baissé, ben, oui, carburant alternatif, solution.
Oui, c'est une solution, effectivement. Alors, il faut avoir le véhicule qui permet d'être converti à l'éthanol. Tous les véhicules ne sont pas possibles, mais c'était une des solutions possibles, effectivement.
Et l'électrique?
Alors l'électrique, c'est, j'ai envie de dire, c'est le Graal, puisque aujourd'hui on sait que 100 € en véhicule électrique, ça vous coûte 3, non pardon,
100 km.
100 km, merci. 100 km en voiture électrique, c'est 3 €. 100 km en voiture thermique, c'est 12 €. Donc le calcul est assez rapidement fait.
Sauf que vous parlez en général là.
Je parle en général.
Sur l'autoroute, faire le plein avec une électrique.
Ça coûte plus cher. Voilà. On est bien d'accord.
C'est tout ce que vous disiez, la préparation, l'organisation du.
La préparation, l'organisation, vérifier où il y a des bornes disponibles. Si vous êtes en électrique, vérifier où la station essence est la moins chère. Éviter les pics et puis lever le champignon, si on peut dire comme ça. Quoi.
Merci, Alette Dassigny, pour ces conseils précieux. Je rappelle que vous êtes directrice Impact chez Roule, premier club automobile en France à l'origine de ce chiffre ce matin, addition. De plus en plus salé sur les routes de France.
Et ça vous fait réagir, vous continuez au 32-16. Comment est-ce que vous allez partir là? On est à la veille de juillet. Comment est-ce que vous partez en vacances cet été? Voiture, train, avion, vous nous le dites au 32-16 sur le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424. Et merci à Benoît par ailleurs qui était en ligne avec nous. Il est 6h49. La bande est là, et avant de retrouver Virginie et Anthony, les grands titres à la une de l'actualité.
Et nos bleus flamboyants contre la Suède, ils affronteront le Paraguay en 8e de finale après cette victoire 3-0 avec un homme qui a particulièrement brillé, Michael Olise. On en parle dans un instant. Ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Premier tour le 18 avril, second tour le 2 mai. Et puis c'est une information RMC. Dans le primaire, seuls 6 élèves sur 10 ont bénéficié de l'ensemble des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, pourtant obligatoire.
Il est 6h49. Et la bande est là, c'est l'heure de la causerie de Virginie Fulpin. Virginie, les Bleus sont en 8e de finale de la Coupe du Monde. Victoire 3-0 contre la Suède hier soir. Doublé de Kylian Mbappé et un but de Barcola. Mais vous, ce que vous retenez, Virginie, c'est la prestation de Michael Olise.
Est-ce qu'on mesure bien la chance qu'on a d'avoir ce joueur en équipe de France? Que dis-je, joueur? On devrait plutôt dire magicien ou chef d'orchestre, parce qu'il a l'art de transformer le football en art et d'éclairer le jeu des Bleus. Hier soir, Michael Olise a été éblouissant, comme depuis le début de la Coupe du Monde. Il en est à 5 passes décisives dans la compétition, mais des vraies passes décisives. Hein, c'est-à-dire que c'est lui qui les crée vraiment. Pour qu'on se rende bien compte, 5 passes décisives dans une seule Coupe du Monde, il n'était que 5 à l'avoir fait jusque-là. dont Pelé en 1970 qui est allé jusqu'à 6 et Maradona en 1986. Voilà, on parle juste de ces noms-là.
Ah oui. Hein.
Michael Olise est en train de faire sa place parmi les plus grands. En équipe de France, il joue en numéro 10, même s'il porte le numéro 11, c'est-à-dire en meneur de jeu, en gros. Et on tient avec lui un joueur de la trempe de Michel Platini ou Zinedine Zidane, tout simplement.
Et alors, il y a des gens qui découvrent le génie de Michael Olise depuis le début de cette Coupe du Monde, forcément. Bah,
avant ce mondial, ceux qui suivent le football de près avaient déjà conscience de sa qualité, mais tout le monde ne regarde pas tous les matchs du Bayern Munich. Hein, et je passe sur ceux qui savaient avant tout le monde. Ils l'avaient repéré quand il jouait à Crystal Palace entre 2021 et 2024.
Ouais.
Non, le grand public découvre vraiment Michael Olise aujourd'hui. J'envie presque ceux qui ne l'avaient jamais vu jouer. Vous savez, comme quand vous avez un avis, Mick a encore jamais vu votre série préférée. Alors pour les séries, je dirais rien, mais pour Michael Olise, on peut spoiler. Vous allez vous régaler, c'est un grand, un très grand joueur. Et oui, on a de la chance de l'avoir en équipe de France, parce qu'il est né, il a grandi à Londres, un père anglo-nigérian, une mère franco-algérienne. Il avait le choix entre quatre sélections possibles et il a choisi la France. Pour plusieurs raisons, je vais vous en donner deux. Allez, la nourriture a beaucoup d'importance pour lui. Désolé pour les Anglais, mais bon, il y a un moment, il n'y a pas photo. Et parce qu'il était un fan absolu de Thierry Henry quand il était mort.
Ah.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de secret. Hein,
ah. Bon, voilà. Il a fallu qu'on tombe sur Thierry Henry.
Oui.
On retombe toujours sur Thierry Henry.
Michael Olise qui s'intègre parfaitement, il faut le dire, dans cette équipe de France.
Bah, on dirait qu'il a joué toute sa vie avec Kylian Mbappé. Vous pouvez lui bander les yeux sur le terrain. Il trouvera quand même le moyen d'offrir un caviar au capitaine des Bleus. Et toute l'équipe a parfaitement conscience de la chance d'avoir Michael Olise. La preuve, hier soir, il a subi une vilaine faute de la part des Suédois. Il est resté quelques secondes à terre. Et Kylian Mbappé, comme Ousmane Dembélé, était absolument furieux. On ne touche pas à notre magicien. Pour l'instant...
Il faudrait pas qu'il se blesse.
Non, il faudrait pas qu'il se blesse. Je peux vous dire que les deux là, ils étaient pas contents, mais du tout. Hein. Pour l'instant, il manque qu'une chose, en fait, c'est qu'il marque un but. Ça a bien failli arriver hier soir avec un splendide retourné acrobatique, mais le ballon a fini sur le poteau. Ça aurait été le chef-d'œuvre absolu. Ça viendra, n'en doutant pas une seconde.
Qu'est-ce que c'est bien l'intelligence artificielle.
Ouais.
On peut faire une chanson sur n'importe quel joueur.
N'importe quel joueur.
Pardonnez-moi.
Ça servait à quoi que je fasse cette
chronique? Je vais prendre le texte de cette chronique, je vais le donner à ChatGPT, je vais dire fais-moi une chanson. Alors est-ce que c'est le nouveau Zidane? Non, d'habitude ça vous agace. Hein, cette.
Ouais, mais là,
je connais Virginie Parker depuis 15 ans.
D'habitude, oui, mais pas là.
Mais pas là. C'est fou.
Tout est possible.
Incroyable.
Dans ce mondial. L'intelligence artificielle qui nous fait de bonne musique, mais qui nous fait aussi augmenter le prix de nos appareils électroniques. Augmentation de manière spectaculaire, Anthony Morel. Et en fait, c'est à cause de ChatGPT.
Oui, c'est ça, indirectement. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Alors, vous l'avez peut-être constaté si vous avez essayé de changer votre smartphone, votre ordinateur récemment. Là, les derniers en date, c'est Apple. Ils ont annoncé des augmentations de prix de 15 à 25%. Sur leur MacBook.
Avant.
Oui, c'était pas cher avant, ça va. Ça fait pas une grosse différence, évidemment.
Ouais,
et les iPads, l'iPad de base, par exemple, qui passe de 389 à 509 euros. Les iPhones, pour l'instant, sont préservés, mais je vous le dis, ça va douiller dans les mois qui viennent. Clairement, les prochains modèles coûteront plus cher. Et effectivement, ils étaient déjà pas donnés. Et c'est vrai pour tout le monde. Là, je donnais l'exemple d'Apple. Mais c'est vrai sur les consoles de jeux.
Oui.
Il y a des augmentations sur les PS5, sur les Xbox. Vous avez eu des augmentations sur les ordinateurs également. Et il y en a d'autres à venir. Asus, Acer, Dell, Xiaomi. Donc, toutes les grandes marques d'électronique ont annoncé des augmentations de prix. À cause de quoi ? À cause de la pénurie de RAM. La RAM, c'est la mémoire vive, c'est un composant essentiel, c'est ce qui permet aux ordinateurs et aux smartphones de tourner rapidement, pour le dire simplement. Et donc, le problème, c'est que la RAM, il y en a absolument partout. Il y en a dans vos appareils électroniques, il y en a dans les voitures électriques, et il y en a aussi dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez ChatGPT, Claude, Gemini, eh bien, dans les data centers qui font tourner l'IA, il y a énormément, énormément de RAM. Or, aujourd'hui, pour les fabricants de ce composant, eh bien, c'est beaucoup plus rentable de se tourner vers l'intelligence artificielle que vers les smartphones ou vers les ordinateurs. Et du coup, il ne leur reste plus que les miettes. Pour vous dire, parce qu'en ce moment, ces entreprises, il y en a trois dans le monde qui fabriquent de la RAM, elles brassent un pognon de dingue, comme dirait l'autre. SK Hynix, le coréen, les salariés de cette entreprise, ils ont touché une petite prime d'intéressement participation. Vous savez combien ?
Non.
400 000 euros par salarié, en moyenne. 400 000 euros, c'est pour vous dire dans les trucs. Aujourd'hui, sur les sites de rencontres coréens, le profil le plus recherché au-dessus des médecins et des avocats, c'est le salarié de SK Hynix. Et c'est une réalité, hein. Je ne blague pas quand je dis ça. Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a une pénurie et que ça a un impact évidemment sur le prix de nos ordinateurs, de nos smartphones, et que malheureusement, ça va continuer dans les mois qui viennent.
Ça va continuer ? Donc, ça sert à rien de se dire j'attends pour acheter.
Non, exactement. La stratégie, c'est de ne pas attendre, ça sert à rien. On ne sait pas quand ça va redescendre. Certains disent 2000 2028, d'autres 2030. Bref, ça va pas se terminer tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir aussi des phénomènes. Vous savez, la shrinkflation, on en parle beaucoup. C'est le paquet de chips, il faisait 100 grammes, maintenant il fait 80 grammes et c'est le même prix. Et ben, ça va être la même chose dans l'électronique. Vous allez avoir des appareils, par exemple des téléphones. Il y avait 12 gigas de RAM, ben on le vous vendra avec 8 gigas de RAM, mais ce sera le même prix. Et vous verrez pas la différence, hein, peut-être à l'usage.
Merci Anthony Morel. C'est déjà demain. Il est 6h55. Pour l'heure aujourd'hui, c'est Apo qui est avec nous.
Salut à tous. Vous avez réveillé ?
Non.
Non.
J'avoue, j'ai fait l'impasse.
Mais il y en a beaucoup d'entre vous match. Qui se sont couchés très très tard. Mais quel match. Les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale. Victoire facile honnêtement, hein. 3-0 contre la Suède. On est solide, très très solide. Le match s'est terminé vers 1h du matin. Vous avez sans doute suivi la rencontre. Venez nous raconter, venez réagir. Et vous projeter avec nous. On vous attend au 32-16 ou sur le WhatsApp 06-12-424-424. Le bonheur.
5-7. Le Morning RMC.